Je suis un pod. Oui, mais un pod libre.
Nous sommes le dimanche 8 avril 2012 et vous écoutez le 26e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, c'est le choix, les prix, la qualité et plus de 14 000 références en stock. Du discount, du neuf et de l'occasion. Salut les joueurs, salut les joueuses et salut Jérémy.
Salut Olivier.
Comment ça va ce soir?
Ça va. On a un serveur en rade. T'as du mal à démarrer le podcast, mais on va y arriver.
Plus d'illustrations sur iTunes. Plus la possibilité de télécharger les podcasts. Plus la possibilité d'utiliser l'application. Tout va bien.
C'est un bon week-end de Pâques. C'est super, là.
On voulait pas d'emmerdes, t'es tranquille, c'est bien.
Voilà.
Mais j'ai reçu samedi matin mon château de Bourgogne. Et puis j'ai joué ce week-end, je suis super content. J'ai été en Suisse voir Gus de Gus & Co. Enfin, j'ai vu Gus et Co. Et j'ai testé Hawaii, j'ai testé Gozu que j'avais pas testé jusqu'à présent.
T'avais jamais joué à Gozu ?
Et non !
Chanceux que t'étais.
Ben oui. Non, j'aime bien me faire fesser comme ça, c'est bien. Mm-hmm. J'aime la fesser. Voilà.
Bien, c'est madame qui est...
Oui, voilà.
Qui viendra témoigner tout à l'heure au micro.
Est-ce qu'on a des choses à se dire aujourd'hui ? Oui, tous nos malheurs, on a quand même eu... deux jolis commentaires
sur iTunes. On a deux nouveaux commentaires sur iTunes.
Alors un truc qui marche pas chez Apple.
Alors voilà, Apple, ils sont toujours merveilleux. C'est que les notes ne sont pas montées. On reste bloqué à 52 notes malgré deux nouveaux commentaires.
Mais est-ce que tu crois que c'est une cabale de Apple pour pas sauver le monde ?
C'est possible que Apple fasse partie de ceux qui veulent détruire le monde. Encore que ça m'étonnerait parce que je pense qu'ils aimeraient bien que le monde dure un an de plus parce que vu les chiffres d'affaires.
Les bénéfices, tu veux dire ? Bah, il faut bien vendre l'iPad 4 et l'iPhone 5.
Bah ouais.
Donc, voilà. Bon,
alors, voilà. Donc, merci à Bigorno94 qui trouve que notre podcast est excellent. Et puis à.
Merci Bigorno.
Et Syriac. Il dit que grâce à nous, il rattrape son retard dans le monde du jeu. Voilà, il
parle de sa Wii, je crois.
Oui, il dit que sa Wii qui pleure parce qu'avec ses enfants, il joue au jeu et plus à la Wii. C'est bien ça. C'est très très bien. Voilà, enfin la Wii c'est bien aussi, mais c'est mieux les jeux.
Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter parce que ça marche. À consulter notre Twitter quand même. Bon, à nous suivre sur notre page Facebook. Vous pouvez liker. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker. Ça va vous permettre d'avoir des informations. Je mets pas grand chose, mais ça va quand même vous permettre d'avoir un peu plus d'informations. Puis maintenant, je vais commencer à poster des petites alertes comme aujourd'hui sur l'application.
Ça ne marche pas.
Donc, si vous nous suivez sur Facebook, vous aurez un petit message vous expliquant la situation. Vous pouvez, plus tard, vous abonnerez à notre flux, il n'y aura pas de problème. Non, ça, on verra la prochaine fois.
Et pour commencer... Pour commencer, ouais, c'est bref, bien sûr. Cette longue série
c'est
de brèves.
News.
Qui vont être très courtes. Sauf...
Ou des actus, je ne sais pas. Enfin, tout n'est pas d'actualité. Allez.
Enfin, là, c'est de l'actu. C'est de l'actu, c'est comme ça. Ouais. Donc.
Des brèves d'actu.
Pour ceux qui nous écoutaient déjà en fin d'année dernière, dans notre dossier des jeux pour Noël, si je me souviens bien, ou non, peut-être même pas, mais bref, en décembre, on vous avait parlé de Double Lapin Crétin, qui était une version sous licence du jeu Double. Du jeu de rapidité Double, et qui était pour l'instant, qui à ce moment-là était disponible que dans une grande enseigne spécialisée. qui était disponible dans une grande surface. Voilà, dont on ne taira le nom.
C'est un peu quand il y a deux routes qui se croisent, bah c'est là.
Voilà, c'est là. Et il se trouve
Pourquoi
on casse le nom ? Pourquoi on ne dit pas ? Voilà, parce que c'est plus drôle.
D'accord. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, en magasin, en grand magasin, grande surface.
Voilà, pour Noël, ce qui était, voilà, bon, pourquoi pas, après tout, les gens achètent des boîtes Lapin Crétin sans regarder ce qui va avec.
L'exclusivité, c'était bien, c'était un jeu société en plus, c'était bien.
Ouais. Oui, puis c'est pas n'importe quel jeu, c'est un jeu grand public.
Oui, mais c'est un très bon jeu.
Oui, bien sûr, c'est pour ça. Bref, et donc il se trouve que Asmodée a décidé de maintenant le diffuser plus largement. Et donc, il est disponible dans toutes les boutiques. Donc, pour la modique somme de 25 euros, on peut trouver des Double Lapin Crétin un petit peu partout. Et Olivier va nous dire tout ce qu'il y a de nouveau.
Alors, nous pourrons trouver dans cette boîte 4 parmi 27 figurines.
De Lapin Crétin.
De Lapin Crétin. Alors, cool. Le Lapin Crétin indien, c'est comme Martine. C'est le Lapin Crétin indien, le Lapin Crétin princesse, tout ça.
C'est Barbie aussi.
Barbie princesse, oui, mais j'ai pas tué.
Non, mais je veux dire... Oui, qui change comme ça, ouais, c'est pareil.
Non, mais après, ça reprend sans doute... Enfin, moi, j'ai que la version Wii, et la version Wii, t'as quand même quelques personnages bien typés, en fait, quand tu changes de costume. Donc là, tu vas les retrouver. Ils servent pas à grand-chose, si ce n'est à marquer les scores, donc c'est un peu un prétexte. Mais bon, voilà, c'est le fun de la Pacrétin.
Oui, ça fait vendre la boîte.
Et puis, c'est à peu près tout. Ils ont fait une sorte de roue où on peut... on peut choisir des...
Oh, ils sont bien emballés.
Non, mais c'est... En fait, j'ai l'impression que... Donc, que ce soit la roue, que ce soit la figurine, c'est des choses qu'ils ont mis en plus. Ils ont fait une grosse boîte, et puis ça permet...
Ah,
mais
c'est une grosse boîte, c'est-à-dire que ça prend plus de place dans l'étagère.
Bah, c'est une...
Pas ça, c'est pas bon pour les joueurs, ça, c'est pas un argument de vente.
Non, mais c'est pas pour les joueurs.
Et les illustrations sur les cartes, elles changent ?
Alors oui. Oui, on a non seulement des lapins, mais on a aussi des objets. Donc, des objets qui sont tirés, je pense, de l'univers des lapins crétins.
D'accord.
Voilà.
Donc, si vous n'avez pas encore Double, si vous aimez les lapins crétins, c'est le moment ou jamais.
Et si vous n'avez pas encore Double, eh bien, Double, c'est un très bon jeu, donc achetez-le.
Voilà.
Double lapin crétin, 2 à plein de joueurs.
4, 5, 6 joueurs.
Pas que ce soit trop nombreux, parce que sinon, c'est le bordel. Des adultes, des adolescents, des enfants.
Moi, j'ai avec mes enfants, pour partir de 5-6 ans, ils tiennent. Ouais. Hein.
Mais il ne faut pas trop mélanger. Si tu mets des adultes et des enfants, après, c'est les adultes qui mettent la fessée aux enfants.
Ouais, mais c'est pas grave, ça leur apprend la vie.
Oh, oui, alors ça, on reparlera des jeux de rapidité et des enfants, c'est un peu... bon. Mais quoi qu'il en soit, à partir de tôt pour toute la famille, et à peu près 25 euros. Il y a 15 jours, on vous avait parlé de... Alors, peut-être 15 jours, peut-être un mois. On vous avait parlé de La Tête dans le Pion, le catalogue vidéo de Asmodée, que j'avais apprécié, notamment grâce à Croc et grâce à la présence de Marcus qui anime cette émission. Enfin, j'ai beaucoup aimé globalement, mais bon, c'est après, écoutez, et puis vous saurez ce que j'en ai pensé. Et cette semaine, je voulais vous parler de Tabletop. Alors, Tabletop, c'est un petit peu le même concept, c'est-à-dire que c'est une vidéo, ça dure une demi-heure, et on a une personne qui va expliquer un jeu. Donc, en l'occurrence, c'est Small World, qui est expliqué montre en main en 2 minutes, et pendant à peu près 28 minutes restantes, tu as une partie qui se déroule sur une table.
C'est Trick Track TV ?
Ouais, c'est ça, mais c'est une tritra... Alors, le point important, c'est à l'américaine. Donc, après ces 2 minutes d'explication,
avec plein
tu
de
as. Non, alors non, ils s'insultent vraiment. c'est rigolo. Et puis, alors, c'est pas de bout en bout, parce que forcément, ben, une partie de Small World, ça dure pas.
28 minutes.
Ça dure pas 30 minutes. Mais, donc, tu as un animateur TV. Ouais.
Non, je vais vanner. Et si c'est un jeu qui dure un quart d'heure, ils font des ralentis pour que ça dure une demi-heure ?
Ben je sais pas, c'était le premier, donc on verra. Donc là, autour de la table, il y avait un animateur TV de Discovery Channel. Il y a un blogueur culture, enfin c'est une blogueuse d'ailleurs culture qui joue à Donjons et Dragons quand même.
Bah, la culture, ouais.
Un shootcaster de StarCraft 2, et puis le présentateur. Et
ah, c'est pas une bande de potes comme ça, machin. C'est
non,
un
mais
truc un peu high level, quoi.
Mais non, mais c'est clairement orienté là-dedans, enfin, dans ce sens-là, très convivial, où tu vois les gens se vannent. Et puis, je ne sais pas si tu regardes Un Dîner Presque Parfait.
Ce serait mal me connaître.
D'accord. Alors peut-être que vous, chers auditeurs, vous écoutez Un Dîner Presque Parfait et que vous adorez ce moment où l'un des convives va se réfugier dans les toilettes avec un caméraman pour dauber un petit peu sur la personne chez qui il est et le dîner qu'il est en train de manger. Alors, il fait un grand sourire par devant, et puis après, là, en l'occurrence, c'est des Américains, donc c'est des sourires par devant et par derrière. Et ils sont pris à part, et ils discutent de la partie en cours de route. Mais ils discutent plus de la partie et de l'interaction entre les joueurs que vraiment la partie en elle-même. Donc, c'est un peu décorrélé, c'est complètement bizarre, parce que tu as le déroulement de la partie avec des illustrations et une explication des pouvoirs, une explication de ce qui se passe. Chaque fois que quelqu'un prend un pouvoir, tu vas avoir une petite cinématique qui va te dire exactement ce que fait le peuple et comment ça marche. Donc, tu as vraiment ce côté règle qui est complètement incrusté dans la partie. Et les joueurs qui sont autour, qui se vannent, qui lancent les dés en l'air, qui sont vraiment une super, une super ambiance. Mais eh ben, ils parlent. Enfin, tu vois, c'est l'ambiance. Quoi. C'est vraiment du sentiment pur. C'est pas de la règle, c'est pas de la stratégie. C'est vraiment.
Ouais, mais ils ont choisi Small World aussi. C'est un jeu qui s'y prête bien pour le premier. On verra pour le deuxième. Ce sera toi, la Team Imperium.
Oui, tout à fait. Ben, ça prendra que 20 minutes.
Ou d'une.
Alors, je mettrai. Alors, quand on aura un site qui sera fonctionnel,
quand on aura
je ferai un billet. Alors, déjà, le 26B sera un petit peu en retard parce que.
Non, mais attends, si quelqu'un en Bretagne pouvait aller nous redémarrer le serveur, c'est peut-être pas très loin. Moi, ça fait un peu loin prendre ma voiture pour mes.
Donc ceci dit, on vous mettra tous les liens pour aller retrouver cette émission Tabletop sur notre site. Alors c'est en anglais et c'est pas sous-titré, donc si vous avez un petit peu de mal, c'est peut-être pas pour vous, mais ça se comprend assez facilement, ça dure pas très longtemps, il y a les explications qui sont plutôt écrites, et puis c'est pas il y a un petit peu de jargon, mais ça va. Dernière chose, tu regarderas cette émission, oui, je vois que tu regardes avec attention. Est-ce que la table te dit quelque chose?
Non, ça, moi, l'œil expert, tu sais, il y a des meeples sur le plateau.
Oui.
C'est quoi ce connerie? C'est Small World, mais je vois autre chose.
Non, c'est pas des meeples, c'est des personnages de pandémie. Ils voulaient que le camp de chaque joueur. J'ai fait la même réflexion, en fait.
Ouais.
Ils voulaient que chaque joueur soit bien visible sur le plateau. Et il voulait que le spectateur puisse dire ça, c'est le camp,
tel peuple appartient à tel joueur. Voilà. D'accord.
Donc ils ont rajouté ça.
Donc je t'écoute pour la table.
Tu la vois, donc dis-moi à quoi elle te fait penser.
C'est une table de cuisine.
Ouais, c'est une table de cuisine. Ouais, écoute.
À ce prix-là, je la veux bien.
Noël.
Ouais, c'est des geek chic là.
C'est geek chic, oui, c'est une table geek chic.
Comment tu l'as reconnu? Ils jouent les petits tiroirs à un moment.
Comment je l'ai reconnu? Ouais. Mais attends, comment je l'ai reconnu? C'est mon site de référence, Geek Chic, donc pas forcément.
Ouais, t'as la même chez toi.
Voilà. En fait, c'est rigolo parce que c'est une table qui est enfoncée. Enfin, je sais pas comment. Tu as un niveau, elle est plus basse en fait. Donc t'as un rebord et le plateau est plus bas.
Ah, effectivement. Mais
et il s'ouvre, enfin voilà.
Ça, je le voyais pas trop quand tu le dis, je l'avais pas vu.
Ah oui, mais bon. Donc alors, il y a une deuxième raison d'aller voir Tabletop. Alors, c'est toujours pareil. Si vous n'aimez pas les vidéos et si vous n'aimez pas les gens qui rigolent autour d'une table en jouant aux jeux de société, bon, je pense que vous pouvez éteindre le podcast. Mais oui, si vous n'aimez pas ça et si vous avez des problèmes avec l'anglais, n'allez pas voir, mais c'est rigolo à voir au moins une fois.
Ça fait un moment qu'on vous dit que notre jeu 2011, surtout Olivier, parce qu'Olivier, c'est matraquage.
À fond.
Ouais, son jeu 2011, c'est...
Seven Wonders.
Non, le vrai jeu, ton jeu du cœur, c'est Snow.
Martin Wallace, A Few Acres of Snow.
Acres, un espo, tu te fais bien reprendre dans Bazincast.
Ah oui, je vous renvoie vers le Bazincast numéro 28. Si vous ne connaissez pas Bazincast, c'est des copains, ou moi en partie. Plus ouf si tu m'écoutes.
Toi, tu les considères tes copains, mais eux, tu sais pas si c'est.
Krillin, il a déjà la même culture que nous, donc c'est. Oui. Voilà.
Krillin, à l'écoute, on sait qu'il est très joueur.
Je vous conseille Bazincast, c'est des podcasts qu'on aime bien écouter, donc n'hésitez pas. Et dans le numéro 28, on parle de A Few Acres of Snow.
Il y a Olivier qui est invité.
Eh oui, j'étais
invité. Ça pète.
Bon, et pourquoi on en parle alors de A Few Acres of Snow?
Alors, pourquoi on en parle? Parce que voilà, pour vous dire qu'il est toujours en rupture. Non.
Non, il est réduit.
Justement, il revient dans une nouvelle édition. C'est merveilleux.
De luxe avec des petites maisons en plastique.
Non.
Non, ça c'était la vraie. L'édition de luxe de base avec des petites maisons.
Ouais, c'était la vraie de luxe, mais bon. Tu sais jamais avant un Wallace, il faut investir ou pas dans la de luxe. Donc.
C'est pas ça le plus important.
Non, le plus important, c'est qu'il revient. Vous allez pouvoir le trouver un petit peu partout dans toutes les boutiques, puisqu'il est distribué par Asmodée, si je ne me trompe pas.
Oui.
Pour une trentaine d'euros.
Oui, c'est pas très cher. C'est un jeu qui est pas très cher.
Enfin, c'est un jeu pour deux seulement. Donc attention. Non, mais. Par rapport à la qualité ludique, c'est pas cher. Voilà, mais pour pour deux, c'est souvent un prix, c'est déjà un prix élevé.
Excusez-moi, cher auditeur, on va faire un aparté.
Attention, c'est parti.
Pour moi, dire c'est un jeu à deux, c'est pas très cher, c'est comme dire ah bah ouais, il y a 2 kilos de plastique dans ce truc-là, c'est pas très cher.
Non.
C'est-à-dire, après, il faut revenir à ce que tu as dit, et tu as raison de faire cette remarque, c'est la qualité ludique de ce jeu, il pourrait être à 45 euros, il les vaudrait quand même.
Eh oui, mais heureusement, voilà. C'est pas comme ça.
Non. La vie est non, parfois mais... bien faite.
Si je fais la réflexion par rapport au jeu à deux, c'est qu'à l'époque, quand Mr. Jack est sorti à 30 euros, c'était le premier jeu pour deux joueurs, à 30 euros. Et à l'époque, peu d'éditeurs, voire même zéro, ne voulaient prendre le risque au départ de sortir ce jeu à 30 euros.
Ah, bon, on va s'arrêter là pour la digression parce que après on va se dire. Enfin,
oui, non, mais c'est pour.
C'est pas le même format de jeu, c'est pas. Il n'y a pas autant de matos dedans et ouais, les contraintes sont, voilà, pas, sont pas forcément les mêmes. Alors, il y a quand même une grosse news dans cette brève.
Oui, bah, c'est une seconde édition. Donc, qui dit seconde édition dit.
Francisation. Non.
Il non, était déjà serait... plus ou moins français dans la première version, il y avait déjà une traduction française en tout cas. Personnellement, oui,
les cartes sont pas en français.
Non, les cartes sont en français, mais ouais. Les cartes, c'est pas gênant. Je crois que c'est Mugus, non ? Qui c'est qui a produit ? Ou Ludigome, qui a produit une version française Ludigome, des cartes. Ludigome. Mais globalement, c'est pas très important. On peut jouer avec les cartes en anglais. Non, puis la version française des règles, je sais plus. Enfin bref, moi, je lis en général les règles en VO.
On y vient, là, à les news ou pas ?
Eh ben, alors... c'est toi qui, à chaque fois, vous rajoute des étages à affiler. Et donc, qui dit deuxième édition, dit révision des règles.
Ah.
Voilà, bah oui, enfin, Olivier.
Alors, première règle, qui n'est pas très importante.
On ne parle pas.
Pendant une partie de A Few Across Snow, on ne parle pas de... Non. Si vous ne connaissez pas A Few Across Snow, on va... Un truc très simple, vous avancez de quelques minutes et on aura fini. On s'adresse aux gens qui ont la première édition et qui veulent savoir en quoi ça change, quels sont les changements au niveau des règles, et qui ont déjà au moins une partie. Alors, si vous jouez la carte Home Support... et qu'il ne vous reste plus de cartes dans votre...
Qui reste moins de 3 cartes.
Ouais, qui reste moins de cartes. Eh ben, tant pis pour vous.
Ouais, mais ça, c'est pas encore le plus gros changement.
Non, mais ça veut dire que tu remélanges pas ton deck et tu reprends pas le reste. Mmh. Alors, tant pis pour vous. Ça veut dire que t'as quand même une petite contrainte. Ensuite, tu peux pas placer de ville dans ta réserve.
Ça, c'est dommage.
Ça veut dire que quand tu t'es fait piquer une location card, enfin, quand tu t'es fait piquer une ville et qu'elle te sert plus à rien...
Ouais.
Tu ne peux plus la ranger dans ta réserve.
Ensuite, mais la réserve, ça ne savait pas ça, de toute façon.
Bah, ça dépend.
Oui, mais moi, tu mets tes armées.
C'est ça le gros avantage de ce jeu, c'est que tu peux faire comme tu veux. Quoi.
Ouais.
Tu peux être offensif, tu peux être défensif, tu peux gérer ta main de cartes. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que c'est un jeu qui est basé sur le deck building, mais qui ne te permet pas trop de balancer des cartes. Et ah là, non. Tu pouvais les balancer.
En fait. Ouais.
Enfin, ouais,
t'as moindre... besoin de ta réserve après.
Bah, ça dépend.
Bah oui.
Enfin bon. Et autre chose, encore une chose.
Quand tu raides.
Alors ça.
Ça, c'est énorme.
Au lieu de raider à 1 distance, on va raider à 2 distances.
C'est énorme.
C'est-à-dire, le premier raid, il va se faire à 1 ou 2 distances. Ça, c'est incroyable. Après, ça sera toujours une carte pour avoir une connexion de plus. C'est-à-dire, si on veut raider à 3, il faut la première carte qui va raider à 2, plus une autre carte qui va raider à 3.
Alors ça, je pense que c'est. Une adaptation par rapport à la dernière règle qui vient changer, qui fait que la carte bateau des Français disparaît.
Ah oui, non, tu veux dire que ça va favoriser, ça va rééquilibrer un petit peu.
Je pense. Mmh. C'est pour ramener un peu plus les Indiens, parce qu'a priori, si Martin Wallace a décidé de faire ces changements, c'est qu'il avait dû constater qu'il y avait des stratégies qui étaient vraiment gagnantes côté français, à mon avis, qui devaient plus s'appuyer sur les bateaux.
Il y a des martingales, oui.
Voilà. Et qui, du coup, ne devaient plus faire assez le côté, normalement, qui est censé être fait par le côté français, qui est le raid avec les Indiens. Donc je pense que c'est pour repousser le coup. Voilà. Et ben moi, ça m'a donné envie de ressortir la boîte. Et il faut pour tester cette nouvelle série de règles.
Mais moi, j'ai toujours envie de ressortir la boîte. Je trouve que c'est un jeu qui est assez long, qui dure
oui, mais c'est ça, ouais.
Au moins 2 heures, qui est exigeant parce que c'est quand même un jeu 30, de...
30 minutes à 2 heures, il dit, ouais.
Oui, c'est ça. Bah, 30 minutes, ça veut dire que tu joues avec quelqu'un qui ne connaît pas le jeu et que tu mets par terre. Ou tu as vraiment beaucoup de chance et l'autre n'a pas de chance. Quoi. C'est un jeu qui est exigeant, c'est un jeu de confrontation, mais c'est un jeu tellement bon. Enfin, je veux dire, si... quoi, ça se voit que j'aime beaucoup ce jeu.
Ça s'entend.
Mais par contre, si vous voulez jouer à plusieurs, je vous conseille fortement London. C'est très bien aussi et c'est beaucoup plus court. Voilà, donc deuxième édition de A Few Acres of Snow du Martin Wallace, c'est très bien. Distribué par Asmodée, c'est très bien aussi, bravo. Et pour 35 euros, je dirais, 30-35 oui. euros.
Voilà. Et pour ceux qui avaient la première édition, ils peuvent télécharger la règle, la deuxième édition,
Sur le site de Trifrog.
Ouais, mais alors liqueur en anglais.
Et puis un lien sur notre site un jour peut-être. On va continuer sur des sites qui sont pas forcément en français. Alors, je suis désolé si vous ne...
Alors, après ta vidéo Tabletop déjà en anglais, c'est bon, hein ?
Oui, mais je vais pondérer un petit peu. C'est-à-dire, je vais parler de deux sites qui sont qui parlent de stratégie et qui sont dans la langue de Pamela Anderson, qui sont twilightstrategy.com.
Elle est portugaise à l'origine, Pamela Anderson.
C'est vrai ?
Non.
Donc, ceci dit... donc, je vais vous parler de deux sites qui sont dans la langue de Justin Bieber. Non, pas de vanne, tout va bien.
Non, je sais
donc,
pas.
Ils sont twilightstrategy.com et dominionstrategy.com. Alors, twilightstrategy.com, vous l'aurez peut-être deviné, parle de ce fabuleux
de
jeu. Pardon ?
De l'ombre.
Twilight ?
Ouais, des vampires.
Ah oui, d'accord.
C'est la stratégie des vampires.
Alors, Dédé Chute se demandait sur Twitter si on coupait les blagues. Je crois que je vais en laisser deux ou trois cette fois-ci pour vous montrer le calvaire que c'est tous les soirs. Alors, Twilight Struggle, c'est un des meilleurs jeux du monde. Si vous allez voir sur...
Un excellent jeu encore à deux. Après, c'est vrai qu'après Fuwa Krofno, c'est très bon.
C'est ça. À deux, qui c'est un card-driven encore une fois. Puisque... Alors,
encore une fois. Attention, le débat arrive après. On en reparlera tout à l'heure.
Alors, Twilight Struggle est un vrai card-driven. C'est-à-dire qu'on a des cartes qui vont nous permettre à la fois de poser des unités et à la fois de faire des actions. C'est-à-dire qu'on va poser des influences, on va les poser soit brutes avec un chiffre qui est sur la carte, ou alors on va pouvoir faire des actions globales sur la carte qui ne sont pas forcément posées des unités.
Et ça reproduit la guerre froide.
Et le point assez intéressant, c'est la guerre froide. Donc, on a Labyrinthe qui est sorti un petit peu plus tard et qui est un séquel.
Mais c'est en solo, je crois, Labyrinthe.
Non, c'est un ou deux.
Ça, ouais.
Qui est un séquel de Twilight Struggle et qui reprend cet aspect de card driven. Mais il faut aimer l'idée. Enfin, la guerre froide, c'est quand même un thème qui est un petit peu plus sexy que la lutte contre le terroriste, au moins pour moi. Même si pour beaucoup, ça ne doit pas être sexy du tout. La guerre froide.
Non, puis même le plateau de Twilight Struggle, il n'est pas sexy non plus.
Il n'est pas sexy, il était en anglais, maintenant il va se trouver en français. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est asymétrique et où au départ les Russes sont très forts et un peu comme dans la vraie vie, les Américains prennent le dessus.
La fin de la Seconde Guerre mondiale à notre époque, avec la course aux étoiles dedans.
Si vous avez suivi notre conseil, que vous êtes allé chez Ludic Bazar pour précommander votre Twilight Struggle en français, vous serez sans doute intéressé par ce site qui va en fait faire un focus sur les cartes. Donc là, j'ai la carte, la décolonisation. Et qui va vous expliquer, le background, ça on s'en fout, mais quand est-ce qu'elle va être jouée, par qui, parce qu'il y a des cartes qui peuvent être jouées et par les Américains et par les Russes. Qui va vous dire, si vous êtes autour 1, si vous êtes autour 2 ou 3, si c'est dans les pays d'Afrique, etc., etc. Donc c'est vraiment très détaillé et
c'est très détaillé.
La stratégie, mais vraiment très très fine sur les cartes de Twilight Struggle. Moi j'aime bien, ça peut en rebuter beaucoup parce que c'est quand même il faut aimer rentrer dans le détail et ce qui va plaire un petit peu au plus grand nombre, je pense, c'est plutôt Dominion, puisque on a la même chose dans Dominion, on a les cartes qui sont passées en revue. Toujours le problème, c'est que c'est en anglais, mais on rentre aussi dans le détail. Et puis voilà, donc là on a le pont, on a ce que ça fait, on a les cartes qui marchent bien avec, et ça j'ai trouvé que c'était une super idée, c'est-à-dire que quand on a la description d'une carte, on va dire si vous avez cette carte, vous pouvez par exemple jouer les autres ponts, le native village, etc., etc. Donc on va vous dire cette carte, elle marche bien avec ces cartes-là. Et elle rentre en conflit avec les jeux qui sont plutôt attaquants ou les jeux plutôt d'argent. Donc si vous cherchez un moteur de jeu, cette carte-là ne rentrera pas, ne va pas fonctionner avec les cartes que vous aurez déjà en main. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais le problème, Oui. Enfin, tout dépend comment vous jouez après, mais c'est que si on a fait un total random pour avoir les cartes,
c'est pas grave.
Ça va. Les probabilités pour que les cartes avec lesquelles ça marche ou que ça marche pas.
Non, parce que c'est là, t'as souvent des. En fait, on va te dire le type de jeu plutôt par rapport auquel ça va marcher ou plus le type de jeu que
works with. Et...
Voilà.
De toute façon, enfin bon, c'est super intéressant. Maintenant, il y a de quoi lire. Hein.
Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et puis décortiquer un petit peu Dominion, puis devenir un expert dans le deck building Dominion, et ben
c'est. Il y a le top des cartes les pires, les top des cartes les meilleures.
Dominionstratégie.com. Et puis, ben, on ne pouvait pas passer à côté de À la carte. À la carte, c'est Thomas Quay, Grunt, qui d'ailleurs son coup de cœur, c'est A Few Across Snow, ça c'est rigolo, qui va aussi décortiquer des cartes. Alors, c'est des cartes pour Her Runage, les cartes de Few Across Snow, de Race for the Galaxy, de Nefertiti, de plein de jeux, mais plutôt des jeux français en fait. Et c'est sympathique, bien écrit et intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.
Point commun de tout ça, c'est que ça analyse que des jeux de cartes.
Mais c'est pas des jeux de cartes.
Mais si, non, mais il analyse les cartes.
Oui,
les jeux de cartes.
Oui.
Mais c'est pareil, Thomas, il analyse les cartes dans les jeux.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un point commun. Oui, oui, il y a une certaine cohérence dans cette brève.
C'est ça, voilà. Et Thomas, en plus, il analyse effectivement une carte en particulier, en général, ouais. Ou une catégorie de cartes. C'est très intéressant aussi, il faut juste avoir du temps pour lire tout ça. Je parle même pas après pour mettre en pratique.
Oui, mais avec un Netvibe ou un lecteur RSS bien foutu, à mon avis, ça prend pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on arrive dessus.
Non, mais il faut lire tout ça déjà. Faut
oui, c'est ça. Il y a tout le passif, en fait. Mais une fois que t'as pris. Ben voilà, hein. Vous avez un week-end où vous n'avez pas de serveur et.
Voilà. Ben, si les serveurs des autres fonctionnent mieux, vous pouvez les lire. Par contre, ouais. Le truc, c'est toujours la question, c'est est-ce que je vais vouloir lire tout ça en sachant que ça risque de révéler des choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, on aime bien soi-même se rendre compte de toutes les étapes. Quoi.
Mais je pense que c'est une deuxième étape. C'est-à-dire, première étape, tu vas découvrir. Et après, tu vas te dire, j'aimerais bien faire coller... avoir un build order ou quelque chose, enfin un build order c'est pas très adapté pour mais l'idée y est, c'est-à-dire qu'on va dire je veux partir dans cette stratégie, que ce soit une stratégie indienne ou une stratégie le pont ou je ne sais quoi,
oui.
et qu'est-ce qui marche bien avec quoi, et quelles sont les erreurs à pas faire, et ça peut être intéressant,
ouais, ou en lisant ça peut te donner d'autres des éclairages sur les choses que tu n'avais pas vues dans le jeu et auxquelles tu vas faire attention à la partie d'après.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça peut te donner un tout autre intérêt à la carte. Tu vois, c'est un peu comme la réserve, c'est-à-dire que tu l'utilises d'une certaine façon. Et c'est ce genre de site, des gens qui sont très pointus et qui parlent de choses très stratégiques, ça permet d'aller plus profondément puis d'utiliser tes cartes de façon différente.
Voilà, parce que des analyses de cartes comme ça, c'était très connu pour les jeux de cartes à collectionner, type Magic, Pokémon, choses comme ça. Où là, tu as des sites qui se spécialisent. Vraiment, mais c'est différent, enfin, je trouve. Dans un JCC, décortiquer une carte, c'est encore différent. Okay. Il y en avait plein d'autres, des guides comme ça à l'occasion. Je ne sais pas s'ils existent encore, je chercherai, je vous en parlerai plus tard.
Voilà, et puis si on en trouve des en français, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément très à l'aise en anglais, donc on essaiera de vous en reparler un peu plus tard. Et puis, on parlait de Thomas Quay, ça tombe bien, puisqu'il est l'auteur de la 11e énigme officielle pour Sherlock Holmes Detective Conseil. Elle sort maintenant, elle est en boutique, on vous entendrez ces mots. Elle n'est pas très chère.
5 euros à peu près.
Voilà, 5 euros, et elle s'appelle La Rançon du Diable. Et c'est une exclusivité Istari, c'est une nouveauté Istari.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas une des anciennes enquêtes d'il y a 20 ans qui a été remise au goût du jour.
Et c'est l'11e, voilà.
Voilà, et il a répondu même à deux, trois petites questions, c'est assez rapide, sur le site de Istari. Par exemple, tout simplement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture d'une enquête ? De quoi t'es-tu inspiré pour le scénario ? Combien de temps cela t'a pris ?
Tout son temps, je pense.
Voilà, oui, les réponses sont courtes, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour répondre, parce qu'il devait être en train de finaliser son, son enquête. Voilà, mais je ne suis pas encore arrivé au bout, moi, des 10 de base, donc...
Oui, c'est ce qu'on a dit quand on vous a déjà parlé d'enquêtes supplémentaires pour Sherlock Holmes Détective Conseil. Il y en a 10 dans la boîte, c'est déjà énorme. Vous allez passer déjà 30, 40 heures à faire les 10 premières. On en trouve quelques-unes, notamment chez Gusenko. Et vous allez, de toute façon, avoir ce qu'il vous faut en matière d'énigmes, il n'y a aucun problème.
Par contre, je suis étonné que... Enfin, c'est parce qu'ils avaient que ça à sortir pour l'instant, mais c'est marrant d'en sortir qu'une non. et du coup de vendre à 5 euros.
Non, je pense que... Enfin, oui, mais...
Par rapport au petit...
C'est inhabituel.
Éditeurs. Oui, c'est ça, c'est inhabituel. Ouais, ouais, ouais.
Mais bah, c'est un peu comme Twinit. Tu sais, c'est un petit peu des trucs qui sont pas forcément...
Oui, mais que les éditeurs n'hésitent plus à faire maintenant.
Ouais, tout à fait.
Qu'on voyait pas avant.
Il y a peut-être un circuit d'édition qui est un peu plus souple et qui permet justement des choses comme ça. Et là, on est pas dans un circuit d'édition en jeu. Rappelle-toi que oui. là, c'est du livre, en fait.
Et c'est imprimé en Allemagne, en fait.
Donc,
on se pose la question dans l'interview avec Martin.
Et là, en l'occurrence, c'est un petit feuillet, donc ça doit pas être vraiment difficile à faire, parce que c'est comme un catalogue, en fait.
Ouais, ouais, c'est ça. Bon.
Bah écoutez, espérons que de toute façon, c'est très bien, on va en parler dans le dossier du JCE des Seigneurs des Anneaux. Des petites choses comme ça, ça relance en fait l'intérêt pour les jeux. Ça permet de récupérer, de refaire en fait une enquête. Ouais. Quand ton intérêt pour le jeu c'est un petit peu tassé et que tu t'en as fait 2, 3, 5, tu dis ah oui, hey,
c'est le principe des extensions.
Ouais. Une nouvelle, super, et bien t'en fais 3 d'affilée et puis t'es content.
Très bien, et pendant qu'on en est à Hystérie, il y a 2 semaines, on vous a présenté Agricola, et j'ai trouvé la bonne idée de vous dire « Oh bah oui, mais l'extension Les Fermiers de la Lande, il n'y en a plus,
Bouh.
Et il n'y en aura plus jamais, parce que c'est ce que Hystérie disait.
Hey, » C'est comme Trajan, t'as dit « Non, 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 ça ne sera pas réédité. » Bravo.
Mais si, je disais que ça serait réédité, vu le succès qu'il avait eu. Faudrait que je me réécoute.
Ouais.
J'ai peut-être dit n'importe quoi. Mais par contre, Hystérie avait dit non, non, on rééditera pas Les Fermiers de la Lande. Et puis, bah, finalement, si, puisque ça revient doucement, tranquillement. Là, en avril. Alors, Agricola va être en réassort aussi, puisque Agricola aussi est en rupture en ce moment. Donc, voilà, pour une fois, on vous a parlé d'un jeu non disponible, mais bientôt disponible. Donc, le retour de l'extension. Donc, si vous avez déjà bien joué Agricola, il faut prendre l'extension.
Les Fermiers de la Lande, oui, c'est indispensable. L'extension Les Fermiers de la Lande apporte vraiment quelque chose par rapport au deck. Tu sais, il y a plein de petits decks.
Ah, les petits decks, oui, les petits decks, c'est juste du fun. Ça rajoute un peu de fun dans un jeu.
Et en fait, on a beaucoup. Et là, ça change le jeu tout en le gardant le même, mais c'est vraiment super.
Ça vous remet une petite pression. La première partie avec l'extension, vous allez vous dire, vous allez vous retrouver comme les premières parties Agricola.
Ouais.
Mais comment on fait pour gérer tout ça?
Ouais, parce qu'il y a des trucs en plus. Ouais. Ah, c'est bien.
Donc voilà. Et puis surtout, il va y avoir Kélus. Relooké qui va revenir. Alors, relooké, la boîte de base en tout cas déjà change. J'imagine que le graphisme aussi, ça lui fera pas de mal. Du plateau, etc. et des bâtiments. Peut-être un graphisme plus proche de ce qu'on a en version sur iPad.
L'illustrateur a montré qu'il avait fait d'énormes progrès et avait c'était vraiment trouvé. On l'a vu quand il a commencé à illustrer Scylla. Arnaud Demegde a vraiment fait du très beau travail, il a trouvé sa patte. Il a conforté ce travail-là avec Nariak sur Sherlock Holmes Detective Conseil. Je pense que s'il refait, lui, une boîte maintenant, il la fera de façon complètement différente. Donc à voir, je pense que de toute façon, c'est un excellent jeu. Et ça vaut. Ça, c'est un jeu qui a sa place de toute façon dans toutes les bonnes ludothèques. On a déjà parlé dans Proxy Jeux des jeux de Richard Borg. Et surtout. Son mécanisme, le mécanisme Command and Colors qu'il a mis en place, c'est de la conquête de territoire, c'est de l'affrontement...
Avec une notion de leader déjà,
ouais.
Qui est celui-là.
Non mais tu vas trop vite là.
Ah pardon, oula.
Non, je voulais dire, en général c'est de l'affrontement d'armée à échelle moyenne, c'est pas tactique, mais c'est pas non plus des grandes batailles. Quoique, ils ont sorti après. Bon, donc c'est de l'affrontement avec des miniatures. Battlecry, qui est sorti en 2000, c'est la guerre de sécession.
Qui a été réédité l'année dernière.
Voilà, pour le 150e anniversaire dans une très belle boîte. Mémoire 44, qui reprend l'histoire du débarquement en 2004, puisque c'était les 60 ans du débarquement. Battlelore, qui est la version héroïque fantasy qui rajoute des créatures, des orques, des gobelins, de la magie. Sorti en 2006.
Et pour les X ans de... Je sais pas quoi, de la guerre de 100 ans, de Crécy. Ouais,
et tu rigoles, mais c'est rigolo parce qu'en fait...
Si, ça marche avec Crécy. Ça fait les... C'était en 1346, donc...
Ouais. En fait,
il y a 660 ans de la bataille de Crécy.
C'est comment la première, le scénario d'introduction, c'est Azincourt. Donc, si vous avez. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est une extension, c'est un standalone qui n'a rien à voir avec quelque chose de réel. Mais par contre, le système de cavalier, le système d'archer, Si vous êtes un tantinet curieux et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, rejouer à Zincourt, voilà, c'est Battle Lore. La même année, en 2006, est sorti Command & Colors ancien. Et la différence entre Command & Colors et les autres jeux de la série...
Bah, c'est l'époque.
Pas que.
Alors, non, c'est surtout le niveau de difficulté de la règle.
Et puis, les petits cubes en bois, c'est-à-dire qu'on n'a pas des figurines en plastoc.
Ouais.
On a des dizaines, centaines de cubes en bois.
C'est des centaines. Avec des petits stickers à coller des deux côtés au début. Ça vous prend 2 heures par boîte.
Ouais, c'est cool.
Il y a une boîte de base et 5 ou 6 extensions.
Et là encore, on revient à quelque chose qui est beaucoup plus historique. Puisqu'on a Hannibal, on a les Romains, on a Carthage, on a...
Ouais, c'est ça. Le premier, c'est les guerres puniques. Première guerre punique, donc Rome contre Carthage. Après, il y a plein d'extensions, effectivement. On peut même rejouer les guerres civiles romaines.
Alors l'extension, c'est le cas pour Mémoire 44, c'est le cas pour Battle Lore. Vraiment des jeux qui se prêtent à avoir d'autres armées, d'autres champs de bataille, des choses comme ça. Et puis, en 2010, est sorti Command & Colors Napoléonique.
Ouais.
Où là, il y avait déjà quelque chose de plus tactique avec des leaders. Là, on revient sur ton histoire de leader qui était dans Battlecry.
Il est lancé dans Command & Colors ancien, à la base.
Ouais, tout à fait.
Mais Napoléonique change vraiment par rapport à ancien. Il y a une notion de formation, les unités vont avoir des formations. Et il va y avoir... il y a une notion... Comment on va dire ? Dans les autres Command & Colors avant, dans les anciens notamment, tu joues un camp comme tu veux. Tu peux jouer les deux camps, il n'y a pas de différence dans la manière de jouer les unités. Dans Napoléonique, il a voulu que les joueurs, quand tu joues les Français, quand tu joues les Anglais, ils les jouent plus proches de ce qu'ils étaient dans la réalité.
C'est plus simulationniste ?
Ouais, c'est plus près, mais ça change vraiment le jeu du coup. En plus, le jeu a vraiment une autre dynamique du coup. Par exemple, les Français ont un bonus s'ils se déplacent et qu'ils attaquent en même temps, des choses comme ça, alors que les Anglais, au contraire, vont avoir un bonus s'ils restent en position défensive. Il y a aussi une notion de former le carré. Quand il y a une charge de cavalerie qui arrive sur les troupes, ils forment le carré comme ils faisaient à l'époque, etc. Donc il a rajouté ces notions-là en plus. Ça change vraiment la dynamique du jeu. Et en plus, il y a une grosse différence. La plus grosse différence de Napoléonix, c'est que dans tous les autres jeux de Mémoire 44, quand on a 4 unités au début, on lance par exemple, elle lance XD. Mais après, quand on n'a plus qu'un pion, on continue à lancer XD. Oui. Alors que dans Napoléonix, si tu as 4 cubes, en gros, tu lances 4D. Si tu n'as plus que 3 cubes, tu lances 3D. Ta puissance de feu diminue au fur et à mesure que tu perds des hommes dans ton unité.
Oui, parce que en fait, le postulat dans les autres jeux, c'est que la force de ton armée, en fait, la force de tes unités reste la même jusqu'à un moment. Il y a un effet de seuil. C'est pas que ton unité est complètement décimée, c'est qu'en fait, elle retraite. Tout le monde part dans son coin et donc elle attaque plus. Mais jusque là, elle a quand même une force d'attaque qui reste plus ou moins équivalente.
Alors que Napoléon n'y est pas du tout et ça change vraiment la dynamique du jeu. Ça n'a absolument rien à voir.
En 2010, toujours les batailles de Westeros. Alors là, on revient dans l'Heroic Fantasy et
c'est plus Richard Borg là.
C'est plus, oui, mais c'est librement inspiré d'eux. Enfin, c'est quand même du Command & Colors, non ? C'est Robert Kuba qui a fait ça.
Ouais, mais dans mon souvenir, on avait fait une partie. Tu actives plus sur les flancs ou le centre, machin.
Non,
tu actives
des
leaders, etc. autour.
Ouais, c'est ça qui change.
C'est vraiment différent.
C'est la grosse. Et moi, j'ai trouvé que c'est ce qui donnait vraiment un sens à ce jeu-là.
Ouais, mais enfin, pour moi, c'est quand ils étaient inspirés de Richard Borg, je trouve qu'il n'y a plus rien. Petite précision, pour le Command & Colors, Command, ça symbolise les cartes. On va jouer les cartes de commandement pour dire on joue les unités sur le flanc, etc. Et le Color, ça symbolise les dés qu'on lance ensuite pour une résolution de combat.
Oui, la force.
Parce que.
Le type d'unité, enfin, si c'est des rookies ou si c'est des.
Non, mais quand tu lances les dés. Non, c'est des vétérans, les rouges, enfin, les unités heavy ou pas, etc. Donc rouge, bleu ou vert.
C'est ça. Et donc maintenant, vous vous demandez pourquoi on vous en parle, parce que ça, c'est presque un mini dossier sur. On vient de faire un.
Avec ça, vous avez de quoi acheter un paquet de jeux, on est pour un paquet de pognon et un paquet d'heures de jeu.
Donc, pourquoi on vous parle de ça ? Parce que si vous n'aimez pas la Grèce antique, si vous n'aimez pas l'Amérique, si vous n'aimez pas le débarquement, si vous aimez plutôt le Japon, le prochain chez Cherbourg...
Il devait manquer plus que ça, en fait, à peu près, dans les simulations de ce qu'il a fait. Il a tout fait, napoléonien, tout y est. Il manquait le Japon, justement, et les samouraïs.
Non, après, t'as les tribus africaines, t'as...
Bah, ça sera pour après.
Ouais, plein de trucs. Donc les samouraïs, c'est la prochaine et ça va sortir. Ce qui est intéressant, c'est que ça va sortir chez un éditeur qui s'appelle Zvezda et qui est un éditeur russe. On a noté cette année, enfin l'année dernière, à Essen, la présence, même si je vais me faire jeter des cailloux.
En off, tu peux, je te dirai où tu peux l'acheter si tu, l'as, si tu en veux de l'avoir raté à Essonne. Je l'ai vu l'autre jour, je vais te dire où tu peux l'acheter.
Donc, y avait, on a vu qu'il y avait des éditeurs qui étaient de nationalité qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc des Russes, des Asiatiques, mais pas forcément des Japonais, des Coréens, des gens comme ça. Et là, eh ben, on ne se serait pas attendu à voir le prochain Richard Borg chez un Russe, mais plutôt, je sais pas.
Il a coédité en fait avec un Russe. Avec Constantin Krivenko.
Krivenko. On a des visuels avec plein de petites boîtes pleines de figurines. Et qu'est-ce que ça rajoute ? Eh bien, ça rajoute de la 3D. C'est-à-dire que...
Comme au cinéma.
Oui, c'est ça.
Et sans lunettes.
Ah, mais là, tu m'as pourri ma blague. J'allais dire qu'en fait, dans la boîte, il y avait des lunettes. Et que... Non, c'est ça. Les petites figurines, c'était bleu et rouge. Ah, ouais.
Non, en fait, non. Il faut les mettre bien proches pour qu'elles soient.
Ouais, ça, mais ça, il faut être au bon
angle.
Ouais, ouais. Donc, la 3D, pourquoi ? Parce qu'il y a des petites hexagones en plastique qu'on va pouvoir ajouter. Un peu à la manière de Aeroscape, on va construire son paysage avec des hauteurs différentes. Et forcément, bah, ça va influer sur les mouvements, sur les lignes de vue, sur. Voilà.
D'accord, parce qu'il y avait déjà. Enfin, je veux dire.
Oui, il y avait des collines.
Ça, tu mets juste, voilà, tu mets des collines, quoi. Ouais. Tu mettais des pions carton.
Eh bien, il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose qui démarque ce. Bon, il y a le thème et puis il y a ça aussi. Et puis, il semblerait qu'il y ait des choses qui soient prises en compte, qui n'aient pas été prises en compte avant. Par exemple, le moral, ça y était. Par contre, la fatigue et même le nombre de flèches dans les carquois qui est pris en compte.
Ouais, mais en fait, il y a deux systèmes dans le jeu.
Il y a pour il y a
non il y a le système
standard
de...
et avancé, c'est ça.
Non, il y a le Command Colors de Richard Borg. En fait, il y a deux jeux en un.
Ah.
Il y a le Art of Tactics de Krivenko.
Ah, c'est ça, j'avais pas compris.
Ouais, donc d'accord. en fait tu choisis lequel tu veux jouer. Et alors par contre,
et donc lui, Krivenko, il va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que lui, il veut gérer beaucoup plus de choses. Au départ, le Command Colors, c'est assez simple parce que c'est assez simple. Quand on a en tête les mécanismes généraux du jeu et puis ce que peut faire chaque armée, et en fait c'est les armées qui ont des compétences un peu différentes les unes des autres, et ben quand tu rajoutes une armée, bah, tu n'as qu'à apprendre la compétence de l'armée pour pouvoir progresser. Là, ça m'a l'air d'être beaucoup plus si on commence à compter les munitions, c'est chaud, hein, c'est
bon, bah pff, c'est total, le... de toute façon quand t'as commencé à cramer munitions, faut y t'y va, quoi, jusqu'à ce que tu fasses des gommes et tout, c'est fini, après ça servira à rien, alors
ça m'en aller, quoi.
Ouais, faut aller, bon, voilà. Bah, et ça sort quand chez nous? Parce qu'avec tout ça, bah, je vais le prendre, quoi.
Et ben,
j'ai déjà tout le reste de la série.
Éventuellement, pour Essen.
Ah, pas avant?
Non, je pense courant 2012.
Ah oui, dans les wargames les plus anticipés de 2012, effectivement. Ouais, ouais. Va falloir être patient.
Bon. Après, c'est ce qui peut poser problème, c'est le média de distribution. Je ne suis pas sûr que les distributeurs soient...
Bon, c'est Richard Borg, on arrivera toujours à ce que ça arrive en France, je pense.
Donc voilà. Donc quand on en saura plus, un petit peu plus... sur la date de sortie du prochain Command & Colors, on peut dire ça ou pas de jeu là?
Bah il est pas, Command & Colors, à mon avis, c'est une gamme GMT, donc t'as pas le droit.
Ouh. Ouais.
Ça s'appelle,
ouais.
Samurai Battles. Mais oui, mais il y a quand même du système Command & Colors.
On vous en dira un petit peu plus quand on aura un petit peu plus de visibilité. Ouh, mais si vous aimez,
j'espère même pouvoir y jouer.
Si vous aimez le Japon, si vous aimez les jeux de Richard Borg, commencez à faire des économies. Maintenant, Jérémy va nous parler un petit peu du JCE. Mais pas seulement du JCE, du SDA, parce que vous aurez le droit cette semaine à un haut fameux dossier jeu de cartes évolutif, le Seigneur des Anneaux, qu'on vous promet depuis... Ça fait combien de temps déjà ?
Ou bien 6 mois.
Depuis 6 mois. Donc,
le jeu étant sorti il y a un an.
Oui, mais il fallait finir le cycle, en fait, pour pouvoir vraiment en parler correctement.
Eh bien, ça tombe bien, parce que moi, je voulais parler du deuxième cycle.
Oh là là !
T'as eu ça,
comme voilà. Je fais couper l'herbe sous le pied.
Tac ! Impeccable.
Bah
donc,
vas-y, je t'écoute.
Non, bah, c'est juste pour annoncer.
Non.
Moi c'est rapide. Non, c'est juste pour annoncer le retour en stock du deuxième. En fait, dans le deuxième cycle qui a démarré avec Khazad-dûm, c'est ça. Khazad-dûm permet de démarrer le
cycle des caves nains.
Voilà, le cycle des caves nains, merveilleux nom français.
Bon, oui.
Il y avait eu la porte de Rubicorn qui était sortie. Je crois, qui a même dû être en rupture, qui est revenue. Et la deuxième partie revient aussi. C'est la route vers Foncombe. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans cette chronologie-là, mais c'est pour dire que ça revient. Et Il y a aussi du print on demand. Je sais pas comment ils disent. Impression à la demande en français, tout simplement. Avec rassemblement à Osgiliath, donc 45 cartes qu'il faut commander auprès de l'éditeur, qui vous l'imprime et qui vous livre sous 15 à 20 jours.
Mais toi, cher auditeur, j'espère que tu t'insurgeras contre cette news qui n'est plus une news, puisqu'on en a parlé depuis fort longtemps.
Mais t'as pas parlé de celui-là de Printon Demand.
Il
revient.
Il y en a qu'un.
Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que.
Ah, d'accord. Donc c'est un out of print alors qu'il était sur demande et que.
C'est un peu ça.
D'accord. Oui, mais je comprends mieux alors.
C'est assez fort. C'est du Printon Demand qui est à nouveau disponible parce que voilà. Parce qu'ils avaient perdu les imprimantes ou le serveur était en rade chez eux aussi. Je sais pas.
J'avais compris en fait que tu le demandais et qu'ils le faisaient. Donc, mais je pense qu'ils ont fait 2500, 1000, je sais pas combien. Et qu'en fin de compte, ils en font des tirages assez conséquents quand même.
Ouais, quand même. Et puis voilà.
Ah,
mais pour rappel, les impressions allemandes, on peut les commander que sur leur site, ils ne sont pas disponibles en boutique.
C'est ça.
Donc si vous êtes mordu, que tout ce qui sort déjà ne vous suffit pas, que vous avez besoin des impressions allemandes, c'est le moment, il y a du réassort.
Et puis ?
Non, c'est tout, rapidement. Je voulais rappeler aussi qu'ils ont un guide stratégique. Hein, si ce que va vous dire Olivier ce soir ne vous intéresse pas, ou... voilà, il y a le guide de Boromir. On parlait tout à l'heure des guides... un petit peu Dominion, Twilight Struggle, tout ça, voilà, ils font aussi avec
sur le site de
quelques conseils de Agent
Boromir. Ouais.
Ouais, ouais, surtout les trucs dédiés à OSDA, JCE.
Associé à ce numéro d'actualité numéro 26, vous trouverez normalement un dossier sur le JCE du SDA, donc le jeu de cartes évolutif, le Seigneur Zano, qui doit être en ligne à peu près une semaine à 10 jours après ce numéro d'actu. Jérémy, est-ce que tu as joué dans ta jeunesse ? Ouh là là !
Ouh, c'est trop vieux, je ne peux plus.
Est-ce que tu t'en souviens ?
Je ne m'en rappelle pas.
Est-ce que tu as joué à Shadowrun, le jeu de rôle ?
J'avais fait un ce pauvre scénar d'intro. Et...
scénar, t'étais quoi ? D'accord, ok. Alors, dans Shadowrun, il y avait un rôle qui était tenu par les mecs qui étaient dans la matrice, en fait.
Oui.
Ils s'étaient déconnectés, ils se branchaient et ils avaient un... Ils allaient déconnecter des caméras, ils allaient...
C'est des Netrunners dans Cyberpunk.
C'est possible.
2020.
C'est possible.
Parce que j'ai beaucoup joué à Cyberpunk 2020, en fait. Autre jeu drôle.
Alors, pourquoi je t'en parle ? Parce que j'ai eu une news qui est que le prochain Vaccarino, un inconnu, hein, Vaccarino, Dominion, Kingdom Builders, qui se passe dans l'univers de Android, un jeu qui est complètement passé... inaperçu en France parce qu'il y avait beaucoup de cartes et qu'il n'a pas été francisé, je crois.
Ouais, ça me dit rien du tout.
Il était chez Fantasy Flight Game et puis il est arrivé, mais pas francisé par Edge. Et dans cet univers-là, il crée un jeu qui s'appelle Infiltration. Et Infiltration, l'idée, c'est de rentrer dans une compagnie et puis d'aller piquer des trucs. Comme
sur le réseau, tu veux dire ?
Alors, pas sur le réseau, a priori. C'est juste des voleurs. Il y a une partie réseau. Mais moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser à Shadowrun, pour le côté infiltration, corpo, et puis, et puis tous les moyens qu'on a pour entrer dans la matrice. En plus, en fait, c'est le visuel aussi qui m'y a fait penser. C'est le robot de IA. Et puis, ça m'a fait penser à Netrunner aussi. Mais alors, Netrunner, je ne parle qu'aux gens qui ont plus de 35 ans, en fait. Je pense.
Sorti en 96 ?
Ouais.
Donc toi, t'avais un an ?
C'est ça.
Précoce. Hein ?
Oui.
C'était précoce.
J'ai pas dit que j'y vais jouer. Hein.
T'as jamais joué à Netrunner ?
Si, si.
Ah bon. Tu fais peur. Hein. C'est sans doute le meilleur jeu de Richard Garfield avec Magic.
Tu peux te rappeler. Donc, on va finir sur Infiltration et après on parlera de Netrunner. Infiltration, donc l'idée est là. C'est en cours de développement chez Fantasy Flight Game. C'est du Vaccarino et a priori c'est un peu plus intéressant que ce qu'il a pu faire pour Kingdom Builders, donc on va attendre ça avec impatience.
Alors, en tout cas, la thématique m'intéresse beaucoup. Par contre, c'est 2 à 6 joueurs, ouais.
Ouais, ouais, je pense que ça a l'air d'être très basé sur les cartes. Donc,
oui, c'est ça.
Bon, oui, c'est. Voilà.
Bah, si c'est aussi bon que Dominion, basé sur les cartes, je prends. Hein. Moi, je dis amen. Je vous présente Netrunner rapidement.
Très rapidement.
Alors, oui, très rapidement. Alors, attention, hein, tout de suite, un petit disclaimer. Hein, ce jeu. Est indisponible depuis très très longtemps. C'est très dur de trouver des cartes. À la base, donc, Netrunner sorti en 96. Richard Garfield, qui avait déjà fait avant Magic et Jihad, qui s'appelait
Mascarade.
Vampire et Mascarade. Le jeu qui existe toujours d'ailleurs.
C'est Garfield qui a fait Vampire ?
Ouais. Et Vampire existe toujours. Hein. Il y a encore des joueurs à Vampire, c'est incroyable. Le jeu a eu pas mal d'évolutions, mais Moi, j'ai décroché depuis le temps. Bref, je m'égare. Donc, Netrunner, donc, c'est le troisième jeu de Garfield, sorti en 96, donc chez Wizard of the Coast, donc éditeur de Magic. C'est sans doute un jeu super novateur. C'est un jeu de cartes à collectionner qui est asymétrique. C'est-à-dire que les deux camps sont vraiment différents, vraiment des façons différentes de gagner.
Le hacker et la matrice.
Ouais, le hacker, on l'appelle Netrunner. Bah non, l'autre, c'est le corpo.
Oui, quand je dis la matrice, c'est le système qui se défend contre le hacker.
C'est ça. Et en fait, comment ça se passe? Le corpo, il a dans son deck, il doit mettre des cartes d'agenda. Des agendas, c'est une façon de marquer des points de victoire. Et tout va se jouer à travers ces cartes. C'est-à-dire que le corpo va devoir les placer... face cachée, c'est toujours tout est placé quasiment face cachée côté corpo. Mmh. Il va monter des sites sur lesquels il va placer les objectifs. Et si après, il va falloir dépenser des actions pour les réaliser. S'il y arrive, c'est lui qui marque les points. Mais le Netrunner, lui, va tenter des intrusions dans le système, donc dans la matrice, pour essayer de justement pirater ces informations. Et s'il y arrive, c'est lui, dans ces cas-là, le runner, qui va marquer les points de victoire. Le premier à 7 points de victoire l'emporte. C'est un jeu qui n'a pas eu de succès. Et qui pourtant, je pense que c'est parce qu'à l'époque, il y a eu un raz-de-marée de jeux de cartes à collectionner qui sont sortis. Donc du coup, celui-là n'a pas réussi à... Ouais, mais il y a eu plein de trucs. Il y a eu les trucs genre Spellfire qui sont arrivés avant, mais il y a eu plein de trucs à ce mode. Enfin, Sirons à l'époque, on a sorti des tas. Il y a sorti des trucs sur INSMV. Enfin, il y en a eu un paquet de vraiment...
Il y a eu un jeu de cartes à collectionner, INSMV.
Ouais, je ne sais plus comment il s'appelait.
Ouais.
Dans ce mécanisme, ça faisait penser un petit peu à Vampire. Malheureusement, il est passé inaperçu. Il avait pourtant bénéficié d'une traduction française. Donc, il y a eu là où l'extension, enfin, il y a eu la version de base.
Oh, il y avait SimCity aussi. Il y a eu SimCity. Incroyable.
Catastrophique. Ouais. Catastrophique. Et donc, malheureusement, ce jeu-là n'a pas percé. Pourtant, c'est un jeu précurseur à l'époque. On a 4 actions pour faire ce qu'on veut. Le jeu est totalement asymétrique. Le runner ne va vraiment pas faire les mêmes actions que le corpo. Les conditions de défaite, de victoire sont différentes malgré tout, puisque le runner peut perdre à d'autres façons quand il va tenter des intrusions. Il y a vraiment une part de programmation chez le runner à l'avance. Vos 4 actions par tour, c'est pas assez. Il va falloir programmer sur 2-3 tours comment on va faire ces intrusions. Plein de stratégies possibles évidemment pour construire ce deck, parce que c'est quand même plus de 300 cartes disponibles. C'est pour moi, à l'époque, c'était vraiment une claque ce jeu. D'ailleurs, du coup, je l'ai toujours. Et j'y joue encore.
Donc, moralité, si vous avez l'occasion de trouver des cartes dans une brocante, dans un déstockage, écoutez...
C'est quasiment introuvable.
J'essaie juste de sauver notre rubrique, Jérémy.
Non, je vous ai prévenu, je vous parle d'un jeu impossible. Par contre, peut-être c'est possible de vous procurer encore des cartes pour faire des proxys et builder avec des... Moi-même, j'utilise beaucoup de cartes. Donc, les proxys, c'est des fausses cartes qu'on s'imprime soi-même.
Voilà. C'est...
Parce que le jeu avait quand même beaucoup vécu sur Internet. Vous trouvez des tas d'extensions. En anglais, par contre, sur Internet, il y a de quoi faire. À vous de vous fabriquer les cartes, mais... Sachez que c'est un jeu très riche, qui est vraiment très intéressant.
Infiltration, le prochain jeu de Donald X. Vaccarino, semble reprendre certains des concepts qui ont fait justement le succès.
La richesse de Netrunner. Le succès, malheureusement.
Netrunner.
En fait, je pense que Netrunner, il pourrait être édité maintenant, il ne serait pas démodé.
Et espérons que ce soit tout petit peu plus original que Kingdom Builders et qui remontre que Donald Vaccarino, c'est quand même quelqu'un de précurseur et qui a de très bonnes idées.
Il y a des chances qu'il soit traduit par Edge,
ouais,
mais on ne sait pas. Oui. Mais bon, donc, je craquerai peut-être avant pour la version anglaise.
Et comme on est français, on a forcément des poulains, on est chauvin, on aime des jeux. Ben vous savez, puisque vous nous écoutez, et vous savez que quand on aime des jeux, on les aime. Et ben, si vous voulez défendre votre poulain, si vous avez envie de faire gagner votre jeu fétiche, et ben vous vous rendez sur Trick Track, puisque aujourd'hui, en ce moment, se déroule la 4e Trick Track Cup. C'est la 4e année. C'est sur le forum de Trick Track, et vous allez pouvoir choisir. Alors, il y a je ne sais plus combien, 60. Il y a 64 jeux qui sont en lice, et a priori, c'est les 64 premiers de la liste Trick Track. Et chacun va pouvoir voter pour dire s'il préfère Puerto Rico ou Shadowhunter, s'il préfère Agricola ou Notre-Dame, s'il préfère Funkenschlag ou Through the Ages. Et on va pouvoir voir en fait que, par exemple, là, je prends Funkenschlag et Through the Ages. On est au coude à coude, puisqu'il y a à peu près 300 votants pour chacun des deux jeux. Il y a 52% des votes qui vont à Funkenschlag et 48% qui vont à Through the Ages. Ça va se dérouler sur plusieurs semaines. Il va y avoir des duels comme ça qui vont se poursuivre, comme une compétition sportive avec des poules. Enfin, il y aura là, en l'occurrence, il n'y a pas de poules, puisqu'en fait, c'est par une émission directe. Et puis voilà. Donc, moi, je trouve que c'est rigolo. Si vous avez vraiment envie, par exemple, de faire gagner Few Across Snow par rapport à Kauna et défendre votre poulain, ben, allez-y et votez. C'est une jolie initiative. Ça permet de totalement de mauvaise foi sur le forum et dire mais non, enfin, il faut vraiment voter pour celui-là parce que c'est quand même le meilleur jeu du monde. Et voilà.
C'est quoi les gagnants des éditions précédentes ?
Merci de l'avoir posé cette question.
Tu ne l'attendais pas, hein ?
Mais écoute, Jérémy, je te remercie de m'avoir posé cette question.
N'est-ce pas ?
Alors, les lauréats de la première édition sont dans l'ordre. Numéro 1, Puerto Rico. Numéro 2, Agricola. Numéro 3, Res Force de Galaxie. Et numéro 4, Ispahan. Et l'ordre s'est un petit peu modifié à la deuxième édition, parce que c'est Agricola. Agricola est passé devant Puerto Rico. Agricola, Caius, Puerto Rico et Small World. Et la troisième édition, donc celle de l'année dernière, eu Small World, Agricola, Puerto Rico et Endeavor.
On trouve quand même trois à chaque fois.
Ben oui, Agricola qui Mais est pas loin dans le...
Je m'insurge quand même, où est Dominion ? Il n'est jamais en finale. Enfin, je veux dire, il n'est même pas dans les 4, c'est incroyable. Après, ça dépend des tirages.
Dominion, mais peut-être pas dans la liste des nominés, en fait.
Ah, mon Dieu. Mon Dieu, comment peut-on faire sans le meilleur jeu du monde ?
Mais tu t'en fous parce que cette année, il y a Few Across Snow, donc tout va bien.
Ah ouais, ça en permet de même.
Dominion,
bon,
si, il est là, il est en dernier. Ouf, l'honneur est sauf.
Comment ça, il est en dernier ? Ah non, les 72
en fait, de cette année. Non, il a été qualifié d'office. Il y a 32 qualifiés d'office, donc voilà.
Ah, quand même.
Voilà, donc si vous avez envie de défendre le jeu, le meilleur jeu du monde selon vous, n'hésitez pas. Allez sur TrickTrack, allez sur le forum. Il faut vous inscrire, il faut avoir un compte et être connecté pour voter, forcément. Parce que sinon, ça sera un petit peu du bourrage d'urne. Et puis, défendez vos couleurs, votre clocher, votre poulain. Et puis ce soir, sous la pression populaire, c'est-à-dire la pression de Jérémy, on va vous parler d'une sortie. Alors, je m'excuse très clairement de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce soir, on vous parle de l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en fait, on raccroche beaucoup d'actualité à des choses qui... on replace les choses dans leur contexte. Et c'est un petit peu long. Donc, vous nous direz sur les commentaires, vous nous direz sur Twitter, vous nous direz comme vous voulez ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on continue dans ce format. Il n'y aura pas forcément de jeu de la quinzaine aujourd'hui. Donc, on va en profiter. Jérémy...
Il
a l'œil qui remonte là comme ça. Quoi ? Pas de jeu de la quinzaine ?
J'avais un petit truc rapide.
Oui, bah d'accord. Bah t'en parleras à madame si t'as un truc rapide.
Non, bon, alors. Pas comme ça. Bon, bah alors voilà. Non, bah, je voulais vous parler. Nous, on parle des jeux qu'on aime.
De Neuroshima X.
Voilà, Neuroshima X qui, depuis un petit moment, bon, on n'avait plus trop entendu parler. Il faut dire qu'on sont peut-être un petit peu en rupture d'idées. Ils vont quand même nous proposer une nouvelle extension, mais qui n'amène qu'un clan cette fois-ci, donc ce sera Steel Police, donc une police d'acier, n'est-ce pas ? A priori, un clan à nouveau qui va... je vous rappelle que dans Neuroshima X...
Oui, part du début, rappelle-nous ce que c'est que Neuroshima X.
Bien, ça va être long. Donc c'est un jeu d'affrontement qui se joue, c'est de la pose de tuiles, pose de pions sur un plateau, ça peut être de 2 à 4 joueurs. Mm-hmm. C'est dans l'univers de, je sais plus quel jeu de rôle, un truc post-apocalyptique quelconque, c'est pas un truc genre Babel machin. C'est une extension Babel 13, non, c'est pas ça. Olivier Compu, recherche en direct.
Ouais.
Et donc, dans ce jeu, en fait...
Non, Babel 13, c'est l'extension.
Ouais. Et non, tu sais pas encore.
Non, mais vas-y, je te
dis. Oui, tu me couperas plus tard.
Oui, je te couperai sans problème.
Donc, dans ce jeu, les joueurs vont avoir des armées vraiment différentes. Le but du jeu, évidemment, c'est d'être le dernier sur le plateau. On pose une base. Chaque joueur pose sa base au début de partie. Elle a 20 points de vie. Quand on arrive à 0, on a perdu. Ou bien on élimine les autres comme ça. Toutes les unités ont des forces d'attaque et une initiative. Elles peuvent attaquer à distance ou corps à corps. Et à son tour de jeu, on a trois tuiles en main. Il y en a une qu'on doit défausser. Ensuite, on est libre d'en placer ou pas, de jouer les autres ou pas. Les tuiles, en gros, on va placer les pions. On peut les orienter dans un sens. En général, une fois qu'elles sont posées, elles ne bougent pas. Ça dépend. Il y a des clans qui peuvent être mobiles. Pas tous. Et surtout, on va avoir des tuiles qui vont déclencher une bataille. On peut poser des pions tant qu'il n'y a pas de bataille qui est déclenchée. Il se passe rien, les pions ne se tirent pas dessus. Par contre, dès qu'il y a la bataille, on va résoudre les combats. Comment on les résout ? Il y a un système d'initiative. Donc ceux qui ont la plus haute initiative, ça commence vers 4 à peu près, ils tirent les premiers.
4 ?
Ouais, quand tu as des bonus d'initiative.
D'accord. Plus.
Ensuite, ceux qui sont à 3 d'initiative et qui ont survécu à l'attaque des 4, enfin l'initiative 4, peuvent combattre, et ainsi de suite, on descend 2, 1 et 0. À 0, par exemple, les bases tapent aussi sur les unités qui leur sont à côté. Voilà, et on continue jusqu'à ce que toutes les bases soient mortes ou bien qu'il n'y ait plus de, qu'il n'y ait plus de tuiles à jouer.
Donc c'est très 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 bizarre comme jeu parce qu'en fait c'est pas un jeu où on va jouer bah tiens joue tu tires tu poses ton truc tu tires je pose mon truc je déplace je tire non c'est d'abord c'est statique je prends un jeton je le pose ensuite tu prends un jeton tu poses je prends un jeton je pose et puis pan on... alors après tu peux les boucher et puis t'as des t'as pas que des pions de d'unité t'as aussi des un peu plus de complexité
il y a quelques modules qui donnent des bonus et
mais
tout
mais le rythme est super bizarre c'est-à-dire que tu dis faut que j'ai quand même un coup d'avance sur l'autre parce que sinon, quand si ça se déclenche avant,
ouais.
Je vais être niqué. Et sur, c'est très très atypique.
Et en sachant qu'il y a une gestion de pioche et l'obligation de défausser qui fait parfois très mal.
Ouais.
Il y a des choix très difficiles à faire. Non, mais c'est ce qui fait la richesse du jeu. Hein. C'est très original. Ces choix tendus, etc. Ce placement, cette difficulté du placement. On sait toujours pas dans quel univers ça se passe.
Non, je cherche toujours.
Ah, Simone enfin, reviendra bientôt vers nous.
Oui.
Donc, le jeu a été sorti avec 4 clans, donc on pouvait jouer de 2 à 4. Moi, je trouve qu'à 2, c'est là où le jeu est le plus tactique, évidemment.
Cher Jérémy, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y avait les Moloch en rouge, Borgo, The Outpost en vert, et The Hegemony en jaune.
Voilà. Ensuite, il y a eu une extension. Il y a eu l'extension.
La fameuse Babel 13.
Il y a eu la Babel 13 qui a ramené des camps supplémentaires.
Oui, les Neo Jungle en kaki et les New York en violet.
Et ensuite, il y a eu Neuroshima X Duel pour jouer à deux. Donc, dans la boîte de base, là, on retrouvait un plateau, si je ne me trompe pas, avec deux clans.
Non.
Il me semble que dans Duel, si, hein, il y a le.
Mais c'est pas des clans existants ?
Ils remettaient des clans existants dans Duel ?
Bah, je pense, ouais.
Je ne me rappelle plus. Je vais le dire. Et bref, il y a Steel Police qui arrive, donc qui ramène qu'un seul camp, avec une armée a priori assez statique. Un petit peu aléatoire dans sa résolution, mais une force de frappe puissante. Donc, alors j'imagine qu'elle n'a pas arrivé.
C'est l'extension fait d'outils, c'est ça ?
Ouais, j'en sais rien. Chaotique. Non, mais c'est vrai qu'ils ont déjà sorti tellement de clans différents qu'au bout d'un moment, ils sont peut-être un petit peu essoufflés et ils n'avaient plus d'idées. C'est très bien qu'il y en ait une qui arrive. Elle est vendue à 10 euros, ce qui est un prix correct pour l'extension. Je veux dire, par rapport aux autres, comme ça n'amène qu'un clan, ils n'ont pas mis un prix massu. Donc voilà, sachez aussi que Neuroshima X a bénéficié d'un excellent portage sur iPhone et iPad que je peux que vous recommander. Et si vous aimez le jeu mais que vous n'avez pas forcément l'occasion de trouver des adversaires et que vous voulez réfléchir à des problèmes, il y a aussi une version puzzle game sur iPad qui est très sympa.
Je dirais même plus la version puzzle en fait qui est sur iPad, elle va vous permettre d'appréhender de façon juste le jeu. C'est-à-dire qu'elle va vous apprendre, enfin, vous allez réfléchir au pouvoir de chaque unité. Et c'est clairement un très très bon tutoriel pour bien apprendre à jouer à Neuroshima X.
Oui.
Parce que justement, ça te force à te dire, on te met dans une position où on te dit, bah voilà, là, il faut sauver ta base. Et t'es obligé d'utiliser les pouvoirs de telle et telle, enfin, des unités à disposition. Donc t'es obligé de faire en sorte que ça marche.
Le seul défaut, c'est que t'es obligé de te. Non, les prix sont corrects, ils sont dans les 2 euros. Hein. C'est vraiment au contraire.
Le seul défaut, c'est le prix de l'iPad.
Ça ne compte pas. Non, le défaut, c'est que même quand tu connais le jeu, tu es obligé de te taper les 20 premiers problèmes qui n'en sont pas vraiment, qui sont un apprentissage des règles. C'est un peu con.
Mais tu apprends l'interface comme ça, tu te familiarises avec...
Ouais, enfin, c'est la même interface que le jeu. Enfin, moi, j'ai les deux, j'ai le jeu de plateau, j'ai le jeu Neuroshima... déjà, et le puzzle. Bref, donc duel, il y a bel et bien un petit plateau pour jouer à deux, et puis de nouveaux clans, qui sont les Smart et les Vegas.
Alors, sortie prévue, a priori, très 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 vite en français, peut-être deuxième quinzaine d'avril chez Yellow.
Ouh.
Oui.
Très très bien, voilà. Donc, c'est tout.
Il faut le jeu de base. Couper.
Oui, carrément, je ne sais plus quoi dire. Mais il faut le jeu de base, ou duel, pour pouvoir jouer.
Et puis, tu savais que Robocop, le Robocop du film, était très petit. Il fait au moins une tête de moins que moi, en fait.
L'acteur, le robot ?
La tunique de Robocop est au musée de la miniature à Lyon, qui est plus en plus un musée du cinéma de la miniature.
C'est un musée de la miniature, c'est pour ça qu'il faisait une tête de moins que toi.
Et donc, ils ont plein de costumes. Et donc, Robocop fait.
Donc, il fait 1m10.
Voilà. Je ne fais pas 1m20, je suis plutôt 1m60, ça va. Ok, bon, sur ces bonnes paroles, Steel Police, Noroshima X, c'est un très très bon jeu. Ouais. Chez Yellow, si vous avez. Ça ne sert à rien d'acheter Steel Police si vous n'avez pas le jeu de base. Si vous ne l'avez pas encore, essayez-le, c'est un jeu qu'on vous recommande fortement. Un petit mot sur notre sponsor ? Alors, quoi de neuf chez Luc du Bazar en ce moment ?
Alors déjà, je voulais rappeler l'opération quand même intéressante qui m'avait testé les jeux.
Oui.
On rappelle quand même Ludic Bazar, c'est la seule boutique qui vous permet d'acheter les jeux, vous les recevez chez vous, vous avez 30 jours pour y jouer avec vos amis.
Ou tout seul,
tu sais, voilà, si vous jouez à Onirim. Et ensuite, si le jeu vous plaît, bah, vous le gardez, et si vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer, et Ludic Bazar vous remboursera le prix du jeu, moins 5 euros.
Attention, hein, il faut qu'il soit en bon état.
Oui, il faut quand même en prendre soin, évidemment.
Sinon, c'est de l'occasion. Donc, ça perd beaucoup sa valeur. Mais si vous en prenez soin, il n'y a pas de problème. Vous aurez un avoir et vous pourrez racheter un autre jeu. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai relevé un petit peu sur la boutique pour cette semaine ? Alors, on a parlé de la Rançon du Diable, l'extension pour Sherlock Holmes Detective Conseil. Donc, vous pouvez la trouver, bien sûr, chez eux. Vous trouvez aussi actuellement une opération d'estockage avec quelques extensions de Battle Lore dont on a parlé. Donc si vous avez déjà la boîte de base de Battle Lore et que vous cherchez quelques extensions comme les Maraudeurs Gobelins, les Harceleurs Gobelins, c'est surtout les premières extensions faites de Battle Lore, sachez que vous les trouverez pour moins de 15 euros.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal. J'ai entendu rechercher les prix. Voilà, 13, 14 euros, 12 euros même pour les Maraudeurs Gobelins. Donc l'occasion de compléter un petit peu la collection et de trouver de nouveaux prétextes à sortir ce jeu. Il y a aussi l'arrivée de Dungeon Fighter en français, un jeu qui arrive chez Yellow, donc qui commence à arriver. Et puis j'ai surtout noté, on vous avait parlé dans l'épisode 17 de Miskatonic School for Girls, un jeu, un deck building... En fait, qui avait démarré en Kickstarter et où le principe, c'est qu'on va pourrir les decks adverses. En fait, c'est nous qui buildons les decks des adversaires. Voilà, donc il est en précommande pour un peu moins de 40 euros en ce moment, parce que si c'est un tarif spécial précommande, il était à 37,50 € au lieu de 41,60 €. Voilà un peu tout ce qu'on peut trouver sur ludicbazar.com. Sachez qu'il y a plein d'autres opérations. Il y a une grosse opération d'estockage Donjons et Dragons 4e édition en ce moment.
Ah, si vous voulez vous équiper en Donjons et Dragons, c'est le moment. Vous avez envie de
vous avez l'intégrale là-dedans. De D&D 4 en français.
C'est ça, pour 150 euros.
Voilà, 25 kilos. Prévoyez aussi les étagères.
Ouais, c'est ça, c'est 150 euros pour la totale, plus les étagères. Ça vous coûtera un petit peu plus cher.
Non vendu chez Ludic Bazar.
Voilà, donc n'hésitez pas, Ludic Bazar, ils nous aident. On les en remercie pour ça. On a le plaisir d'accueillir dans le podcast Proxy Jeux Maël. Bonjour Maël.
Bonjour Olivier.
Maël qui vient nous parler de Battlestar Galactica Express, un jeu dont on vous a déjà parlé dans le podcast, mais pour lequel on n'a pas fait beaucoup plus d'explications puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'y jouer. Et Maël, si.
Absolument.
Voilà. Alors Maël, en quoi est-ce que ça consiste le Battlestar Galactica Express ?
Alors BSG Express, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai, c'est une version de Battlestar Galactica qui est faite pour être jouée en 1h, 1h30 max.
Excuse-moi de te couper dès le départ, c'est ma marque de fabrique. Alors Battlestar Galactica, on en a déjà parlé quand on a parlé des jeux coopératifs, je vous renvoie au dossier. Si vous avez envie de s'en savoir un petit peu plus, là on va faire un petit focus sur BSG Express. J'ai fini, je te laisse parler Maël.
Merci. Dis-moi. Olivier, c'est très gentil. Alors, en quoi ça diffère de Battlestar Galactica ? Ça reste un jeu semi-coopératif, c'est-à-dire que, en l'occurrence, tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu, mais au milieu des joueurs humains, il peut y avoir ce qu'on appelle des Cylons.
Des Felons.
Des félons, des traîtres,
des saboteurs,
qui sont bien évidemment cachés, dont l'identité n'est pas révélée tout de suite. Et donc, ces joueurs vont essayer de saboter la partie des joueurs humains. Voilà. Sauf que donc, c'est un peu comme une partie de, par exemple, saboteur, sauf que ça reste un peu plus long, un peu plus étoffé et un peu plus tendu, normalement.
Est-ce que tu gardes ce qui fait vraiment la richesse de Battlestar Galactica, les interactions entre les personnages ? la négociation et justement cette suspicion.
Alors, comme dans toute partie de Battlestar, ça ne marche pas tout le temps, parce que personnellement, j'ai pas énormément joué à Battlestar normal, mais il est arrivé qu'on fasse des parties où
on
passait, exactement, on passait totalement à côté de tout l'aspect paranoïa, etc. Et là, c'est un petit peu triste, parce qu'on joue un jeu qui dure 3 heures, mais on passe à côté de toute une dimension. Et là, je peux pas dire que ça marche non plus systématiquement pour BSG Express.
On retrouve quand même ce côté suspicion. Toi, t'es un Cylon alors qu'en fait, il est un humain, etc.
Potentiellement, oui. Ouais. Alors en fait, exactement.
C'est la richesse du jeu de base, donc c'est pour ça que je te pose la question.
Non, t'as tout à fait raison. Ça essaie de préserver ça, ouais, toutes ces tensions, etc. Sauf que ça ne se joue pas avec des cartes, mais avec des dés. Et bon, ça fait hurler, sur le papier ça fera hurler certaines personnes, mais il reste que tous les votes sont préservés, etc. Donc tout cet aspect qui consiste à, comment dire, à essayer d'analyser l'action de chaque joueur et comment il a réagi face à tel vote, qu'est-ce qu'il a bien pu soumettre comme voix, etc. Ça essaie de préserver ça, sauf que c'est des cartes et non pas des dés.
Alors tu parles de cartes, donc on peut parler déjà des composants, enfin je sais pas quoi, l'édition en fait de cette version. On est sur une version print and play, on vous mettra la référence sur le site. Ça veut dire qu'on va pas le trouver en commerce, il va falloir que vous téléchargiez tout ce qu'il faut pour y jouer, et puis impression, découpage, collage, éventuellement sur du carton un peu plus épais. Et puis Vogue la valeur, mais ça demande un petit peu plus de préparation que pour une édition boutique.
Exactement.
Alors, est-ce que ça demande beaucoup de travail ? Est-ce que je peux le faire facile, ou alors est-ce qu'il va falloir que j'embauche mes enfants pour découper, coller et monter ?
Alors, je ne l'ai pas fait moi-même, mais d'expérience, je sais qu'il y a quand même 24 dés personnalisés dans la boîte, enfin dans le jeu. Qui sont assez indispensables, et quand je dis personnalisé, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des dés à 6 faces normaux, et donc ça implique de soi-même soit s'en procurer des vierges, bon, c'est pas obligatoire, mais dans tous les cas de...
C'est facile aussi, enfin, ça se trouve assez facilement.
D'accord, ok, d'accord.
Ça peut se trouver, si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de problème. Moi, le print and play, ça m'intéresse beaucoup, donc je pense qu'on vous en reparlera dans les semaines à venir, et il y a moyen, soit dans les boutiques spécialisées, soit via internet, d'avoir des vierges, et après vous coller. Visiblement, ce que je vois, en fait, on colle les faces, en fait. On n'a pas à graver les petits symboles sur les dés.
C'est ça. En dehors de ça, il y a juste une vingtaine de cartes, une 10-12 pions, quelque chose comme ça, et un plateau qui fait 3 feuilles à 4, donc rien de spécial. Rien de très dur, le plus pénible, ce sont les dés.
Ouais, c'est raisonnable. Ok.
Voilà. Et donc sinon, ça préserve certaines autres mécaniques de Battlestar Galactica, du Battlestar original, comme par exemple la piste de saut, etc. L'objectif pour les humains reste le même, à savoir arriver à faire un certain nombre de sauts dans l'espace, de manière à échapper à leurs ennemis. Et tout comme la partie, le jeu original, et ben, à partir de la moitié de la partie, on va... distribuer d'autres cartes loyauté, qui vont potentiellement bousculer un peu les allégeances de certains joueurs, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver traître, donc Cylon, au milieu de la partie, et donc devoir changer totalement de la manière dont on jouait jusqu'à maintenant.
Le plateau général, je vois qu'on a la piste de saut, on a le Battlestar Galactica, et on a deux autres parties. Est-ce que tu peux nous les expliquer ?
Alors, à gauche, on a le radar, qui est donc qui correspond un peu à la présence de vaisseaux, soit de vaisseaux humains, soit de vaisseaux Cylons, autour de la flotte. Et donc, il va falloir interagir soit pour escorter les vaisseaux humains en sécurité, soit pour détruire les vaisseaux ennemis. Et au milieu, la grosse partie, qui ne représente rien de particulier, c'est un endroit, c'est l'espèce de piste de dés, en fait, où on va soumettre nos dés pour participer à des votes, et où on va pouvoir voir qui possède, à un moment M, qui possède combien de dés, et donc quel impact il peut avoir dans le prochain vote, etc.
D'accord. Donc ça rejoint en fait les cartes de couleurs du jeu de base. Dans le jeu de base, on avait la pile de destin, qui brouillait un petit peu les pistes et qui faisait en sorte qu'on n'était pas sûr de qui avait voté, et qui faisait en sorte de masquer un petit peu la présence du Cylon. Comment est-ce que ce mécanisme-là... Alors d'abord, est-ce que ce mécanisme-là, on le retrouve dans BSG Express ?
Alors, il n'y a pas de voix dont on ne connaît pas la provenance dans un vote. donc contrairement au jeu original. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand je choisis de participer à un vote, tous les dés que j'ai actuellement en ma possession, je vais les lancer dans mon coin, derrière un petit paravent, derrière ma main, sous un gobelet, peu importe. Et je vais être obligé d'en soumettre au moins un, donc pour le vote, donc de mettre au moins un dé dans le vote. Et le problème, c'est que chaque dé a 2 chances sur 3 de faire des faces négatives. Et le problème, donc, c'est comme on contrôle pas ça, quand on a notamment pas beaucoup de dés, on peut se retrouver, même si on est un joueur humain, à voter de manière négative. Voilà. Donc, et là, c'est là que les suspicions peuvent se réveiller un petit peu.
Ouais, c'est exactement comme dans le jeu de base quand tu es commandant et que tu dis « Ah non, non, mais on saute à 1, mais j'avais pas le choix. Hein. Non, non, c'est, je voulais vraiment sauter plus loin, mais là, je peux pas. »
C'est ça. C'est exactement ça. Et j'aime vraiment beaucoup cette manière de garder un peu les tensions qui se créent autour de la table tout en changeant totalement les mécanismes. Et même le matériel. Et d'ailleurs, la responsabilité de l'amiral reste la même, à savoir, c'est lui qui choisit. Quand on saute, il va lancer un certain nombre de dés derrière son paravent. Et de toute manière, on va sauter d'une certaine distance, mais il peut y avoir des conséquences négatives qui peuvent être les conséquences du saut. Et donc, si l'amiral est si long, forcément, ça va mal se passer.
Est-ce que, comme dans le jeu de base, on retrouve les quatre ressources?
Pas du tout.
Le moral, le nombre d'humains, tout ça?
Et non.
Comment est-ce qu'on perd?
Alors, comment est-ce qu'on perd? Il y a 3 moyens pour les humains de perdre. Soit le Battlestar, le Galactica, est détruit, c'est-à-dire qu'il a 6 zones, il y a 6 zones sur le vaisseau, et suivant certaines crises, car comme dans le jeu de base, à la fin du tour de chaque joueur, on va résoudre une crise. Une des conséquences possibles d'une crise, c'est d'endommager le Battlestar. Et donc, si jamais les 6 endroits du Battlestar sont endommagés, sachant que chaque zone qui est endommagée interdit aux joueurs de faire telle ou telle action jusqu'à ce qu'elle soit réparée, et les joueurs humains ont perdu, donc les joueurs Cylons ont gagné. Autre possibilité, si le radar est rempli de vaisseaux Cylons, donc que personne n'a pris soin de les ôter, mais de les détruire, c'est la deuxième possibilité pour les joueurs humains de perdre. Et la troisième, c'est si les 5 joueurs, enfin si tous les joueurs autour de la table, qu'ils soient humains ou Cylons, sont démoralisés. Donc démoralisés, c'est une autre conséquence potentielle d'une crise. Et c'est aussi une condition, quand on est démoralisé en fait, on va récupérer beaucoup moins de dés, donc on va faire vachement moins de choses à son tour. Et on va être un peu faible du coup.
À combien de joueurs est-ce que ça se joue?
Ça joue de 3 à 5 joueurs. Alors moi j'ai essayé à 4 et à 5. Sur les parties que j'ai essayées, c'était souvent un petit peu simple la première moitié du jeu. C'est-à-dire qu'il ne se passait pas assez de choses malheureusement. Par contre, la deuxième partie était vraiment très fidèle à l'esprit de Battlestar avec beaucoup de tensions, beaucoup de questions qu'on se pose, des choix à faire et la question de savoir à qui on accorde sa confiance dans les prochains votes, etc.
Les rôles sont les mêmes. On retrouve l'amiral, on retrouve la présidente, on retrouve des gens comme ça.
Alors on retrouve comme poste, on va dire, on retrouve uniquement l'amiral qui a pour responsabilité notamment de se charger des sauts dans l'espace. Chaque joueur a un personnage qui a un pouvoir spécial. Voilà, c'est là aussi c'est beaucoup simplifié par rapport au jeu original. Et quand on est Cylon, on a également une crise.
Une super crise.
Voilà, un genre de super crise quand on se révèle, si on se révèle sans être emprisonné. Voilà.
Ah oui, c'était une question que je voulais te poser. Il y a bien une prison?
Heureusement, il y a une prison.
Ah.
Et donc ça se passe.
Mon côté sadique, tu sais.
Voilà,
on peut envoyer dans l'espace et un sas aussi?
Non, je suis désolé.
Oh mince. Bah, ça, c'est pour l'extension.
C'est pour Battlestar Galactica Express Pegasus.
Ouais.
Oui, bien sûr, il y a la prison, donc il s'agit de faire un vote comme dans le jeu original et de voter pour envoyer quelqu'un en prison, sachant qu'une personne en prison, évidemment, a beaucoup moins d'actions à son tour, possède aussi beaucoup moins de dés, mais en contrepartie, à la fin de son tour, elle ne va pas résoudre de crise, donc ça ne va pas forcément non plus être au détriment des humains. Voilà.
C'est moins long.
Oui.
C'est
tout à fait.
Ça, on garde l'intérêt.
Je pense.
Et puis on peut jouer à moins, parce que Battlestar Galactica, c'est quand même un jeu qui prend tout son sens à 4, 5, 6, et là on peut jouer à 3 ou 4.
Alors, j'ai pas essayé à 3, donc je pourrais pas dire, malheureusement.
Ouais.
Je vais pas m'avancer.
Enfin, je pense qu'il faut quand même, si tu veux qu'il y ait de la négociation, si tu veux qu'il y ait suffisamment de suspicion, il faut quand même qu'il y ait un peu de monde. Mais
je pense. Toujours est-il que même si les règles en l'état sont, comme je disais, sont peut-être un petit peu légères, notamment parce qu'il y a de la première partie du jeu qui manque un peu de tension, je pense que c'est très facile d'adapter, de modifier quelques points de règles très rapidement ou de chercher des variantes possibles sur Internet pour ajouter un peu soit de la difficulté, soit quelques éléments histoire d'ajouter une couche de complexité entre guillemets, sans forcément rallonger la partie.
D'accord, bah écoute, merci beaucoup pour cette explication.
De rien.
Et puis peut-être à bientôt.
À bientôt, Olivier.
Et cette semaine, une petite rubrique écran pour changer. Il n'y aura pas tant de choses à dire que ça. Et moi, je vais commencer par Confrontation The Game. Parce que Confrontation, j'y ai joué. J'ai joué en fait...
Un jeu de figurines ?
Ouais, mais tu sais, ils avaient fait un jeu en boîte.
Hybride ?
Ouais. Donc c'était dans l'univers de Confrontation, c'était plus du tactique que du stratégique. T'avais pas à peindre 50 000 petites figurines t'avais un nombre limité.
Ouais, t'avais quand même des figurines en métal, je crois, dans le jeu.
Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais abordé Confrontation par ce biais-là. J'avais acheté d'autres figurines parce que quand on commence à acheter des figurines, ben on tombe dedans, on achète des pinceaux et puis on barbouille parce que on n'est pas peintre et puis parce que voilà, on n'a pas de talent donc on barbouille. Et Confrontation, je trouvais que c'était pas mal. Tu sais, c'est pour quelqu'un qui n'était pas tombé dans Warhammer. C'était un univers sympa. C'était des figurines qui étaient très fines. C'est vraiment, et puis en plus il y avait des nains. Moi, Elena, c'est une histoire d'amour. Et là, Confrontation sort, mais en jeu vidéo. Chez Cyanide.
Parce que Rackham, l'éditeur, n'existe. Je ne sais pas s'il existe encore. Hein. Je crois que tout ça, ça a été fini. Hein.
D'ailleurs,
été stocké chez Ludic Bazar.
Ouais, on trouve régulièrement des offres promotionnelles pour ça. Il faut. Voilà. Alors, donc, Confrontation, le jeu vidéo sort sur PC. Ça va se trouver sur Steam. Pour une quarantaine d'euros. C'est, si j'ai bien compris, plutôt de l'escarmouche tactique où on va avoir un nombre limité de figurines et on va se déplacer sur une carte et on va pouvoir. Il y aura des scénarios et on va pouvoir aller latter les ennemis sur une map. C'est a priori bien fait. C'est a priori assez atypique comme jeu vidéo. Ça a une bonne presse. Maintenant, je n'ai pas de PC, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais par contre, le peu de retour que j'ai vu a l'air d'être pas mal. Donc pourquoi pas, quoi. C'est assez rare les très bons portages, et il semblerait que ce soit quand même pas mal. Donc, Confrontation sur PC, 40 euros, Steam, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et puis, on va balayer les traditionnelles sorties sur iPad, iPhone. On verra pour les Android, il y a un petit bout de news à la fin.
Ah bon ?
Ouais, je voulais garder pour la fin.
Et pas mal.
Et incroyable. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Je vous rassure tout de suite. L'info la plus importante pour iPad, iPhone, c'est l'arrivée de Nightfall. Donc, Nightfall, le deck building game qui est sorti chez Yellow il y a quelques temps, avec un principe de réaction en chaîne... permet de réagir par rapport à ce que jouent les adversaires. Voilà, donc c'est arrivé sur iPad il y a quelques jours. C'est à 3,99€. On verra si on vous fait un retour dans le prochain épisode. Je n'en suis pas sûr. Ça devrait se bousculer. Bon, vous l'avez fait le tour de tout ce qui va sortir normalement au printemps. Donc le printemps, c'est maintenant. Donc je pense que d'ici un mois, ça va pas mal se bousculer en sortie. En attendant, si vous avez craqué pour le nouvel iPad, soyons fous, son bel écran Retina, sachez que progressivement, les applications se mettent à revoir leur graphisme pour être
compatible,
entre guillemets, en fait, pour être plus joli sur cet écran. C'est le cas des Aventuriers du Rail, Ticket to Ride, qui fait peau neuve, on va dire, carrément. Ils se sont permis de remettre pas mal de détails. Au niveau du plateau.
Et qu'est-ce que ça veut dire en fait quand tu as un iPad 2 ? Ça veut dire que tu vas te taper 100 ou 150 ou 200 mégas de plus en graphisme, mais pour rien.
Oui, c'est ça.
Tu auras une mise à jour supplémentaire et ça va t'impacter.
Oui, mais... Carcassonne aussi, donc a fait peau neuve. Carcassonne, maintenant, je crois que c'est 300 mégas l'application. Donc, on explose tout ça pour un écran Retina. En sachant que ces applications, enfin Carcassonne, c'est une application où tu as téléchargé 300 mégas, si tu es sur ton iPhone 3GS, t'es content. Voilà, c'est la... voilà, c'est comme ça, c'est les choix d'Apple, ça se discute pas. Mais par contre, pour ceux qui ont des Retina, bah, c'est super beau. Mais par contre, j'espère que vous avez la version 64Go, hein, sinon vous allez effondrer votre mémoire. J'enchaîne avec donc la petite news à la fois iOS et Android, c'est l'arrivée d'une une mise à jour pour ElderSign. Et cette mise à jour, alors, elle amène quelques nouvelles choses, donc ça c'est gratuit. Et surtout, elle embarque un in-app purchase pour vous permettre d'acheter une petite extension. Allons-y, craquons encore un petit peu. Une extension qui vous est proposée pour à peu près 3 euros et qui vous ramène une nouvelle campagne, l'appel de Cthulhu, qui va vous ramener des instigateurs, on va dire, des nouveaux monstres, des nouveaux objets, etc. Et un investigateur que vous pourrez débloquer une fois que vous aurez vaincu Cthulhu.
C'est ce qu'on...
Un nouveau grand ancien, ouais.
Ouais, c'est ce qu'on reprochait, c'est qu'il n'y avait qu'un seul grand ancien, en fait.
Oui, et l'idée, je crois... Alors, celui-là, Call of Cthulhu, je ne sais pas si il est plus long ou pas. Alors, cher auditeur, je n'ai pas encore craqué, mais sans doute que je vais prendre cette extension. Je pourrais vous faire un retour rapidement. Sachez que la mise à jour comprend aussi une nouvelle campagne. Aussi un nouvel investigateur que vous pourrez débloquer une fois que vous aurez des redéfaits à nouveau, bah, Azathoth. Ici, on est toujours sur cette campagne-là.
Ouais, ok.
Voilà.
3 euros.
Ouais, alors ça dépend si vous êtes sur iOS, sur Android, sur...
Bah, de toute façon, moi, il y a un
truc... Sur iOS, c'est 2,39 et sur Android, je crois que c'est $1, donc après, il faut la conversion.
Je n'achèterai pas le jeu dans sa version plateau. On m'a dit que c'était très long pour ce que c'était.
Oui, la version plateau, j'imagine, ouais, justement.
Et puis c'est un Yahtzee, donc, mais par contre, un Yahtzee tout seul dans ton coin, ça se joue super bien. Et là, pour le coup, la version iOS, elle se joue super bien sur ta tablette. Tu pars, tu prends les transports en commun, le train.
C'est ça. Une partie, c'est 3/4 quand même. Mais ouais, je sais pas si Cthulhu rallonge ou raccourcit la partie.
Oui, mais tu peux la couper, c'est-à-dire que tu peux faire 10-15 minutes. Oui.
C'est pour ça que je sais pas encore si je l'achète sur mon iPad ou si je l'achète sur mon Android, parce que je pense que j'y jouerai plus facilement dans les transports en commun en fait que chez moi.
Aux toilettes.
Oui, alors si je reste 3/4 aux toilettes, je pense que je vais me faire virer.
Gare aux hémorroïdes. Et ben voilà, à chaque fois je dis et ben voilà, ça c'est cool. Alors et ben voilà, et bien encore un de passé, un de plus.
Ça y est.
Numéro 26.
Ouais, on a fait de A à Z.
Ce soir, c'est dur, parce qu'on a enregistré le dossier, le Seigneur des Anneaux, le JCE du Seigneur des Anneaux.
Oui, au milieu de cet épisode, on a fait une pause pour le dossier, ce qui fait qu'il est bien tard là.
Donc, quand vous écouterez ces quelques mots. La semaine prochaine ou d'ici une dizaine de jours, vous aurez le dossier du Seigneur des Anneaux. On a d'autres dossiers, un dossier sur Dominion, un dossier sur les jeux coopératifs. Donc si vous commencez à nous écouter par cet épisode-là, bah, vous cherchez un petit peu, vous verrez, il y a plein de dossiers différents. Ça fait longtemps qu'on n'a pas interviewé quelqu'un. Enfin, la dernière fois, c'était Martin Wittberg. Et voilà. J'espère que quand vous entendrez ce podcast, de toute façon, quand vous écouterez ce podcast, nos problèmes de serveur seront finis parce que sinon, vous ne pourrez pas le télécharger.
Le fait que vous ne pourrez pas l'écouter.
Éventuellement, on aura une petite illustration sur iTunes, mais ça, c'est encore pas dit. On a une idée, on va peut-être gruger Apple.
Dis pas ça. Hein,
non, c'est pas c'est ça. Si
Apple t'écoute, t'as fini. Là.
Non, je ne veux pas gruger Apple. Je veux juste avoir mon illustration dans mon podcast. C'est pas... Je ne demande pas la lune. Merci encore de nous mettre des commentaires sur iTunes. Merci encore de nous noter sur iTunes. Non seulement ça nous donne un peu plus de visibilité, mais en plus, ça nous fait super plaisir. Ça fait super... Enfin, c'est super bien d'avoir un retour de votre part. Les retours, vous pouvez les faire aussi sur le site quand il est en ligne. C'est toujours... On est un peu lourd avec ça. Mais ouais,
peut-être que certains auditeurs n'auront même pas remarqué que le serveur a tombé pendant le week-end de Pâques. Ça fait plus de 24 heures qu'il est tombé, ça fait long,
ça fait trop long. Vous pourrez aller mettre un petit commentaire, nous dire si vous avez trouvé qu'on a été un peu trop long, un peu trop de digression, dans ce, si vous voulez qu'on revienne avec des news plus brèves, des brefs plus brèves.
Des podcasts de 20 minutes.
Si vous voulez rajouter des petites choses qu'on aurait loupées, n'hésitez pas, venez mettre votre grain de sel. On est toujours content quand il y a quelqu'un qui apporte un peu de valeur ajoutée à notre émission. Voilà. Eh ben, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, écoutez notre dossier. Et puis en attendant, jouez bien. Une vidéo, ça dure une demi-heure et on a une personne qui va expliquer un jeu. En l'occurrence, c'est... J'ai oublié. On a déjà pas mal parlé dans Proxy Jeux des jeux de Richard Boards.
Richard Boards. Ah non, tout dessiné.
Boards. Ensuite, la même année, est sorti Command & Colors. Et Command & Colors...
Ancien.
Urk.
Command & Colors ancien, ça s'appelle.
Dans Giroté.